Ah, merci. Je crois que c'est pas trop fort, ça va ?
Ouais ?
Ok, parfait. Donc effectivement, je m'appelle Pascal Marchand, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse, on dit maintenant, autrefois on disait Université Paul Sabatier. Et au départ, avant d'être en infocom, j'étais en psychologie sociale, qu'on appelle cognition sociale, et je travaillais essentiellement sur des questions d'engagement, d'influence, de persuasion, de propagande, choses comme ça. Et puis je m'intéressais, et on va y revenir, à des technologies assez particulières, qui sont des techniques d'analyse des discours assistées par ordinateur, ce qu'on appelle l'analyse des données textuelles massives, donc à base de statistiques essentiellement. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, enfin, en tout cas pas encore, on va commencer à en mettre. Pour l'instant, et peut-être pendant encore quelques temps, nos modèles sont plus stables que les modèles d'intelligence artificielle, donc on en profite. Mais on risquerait quand même d'être rejoint et peut-être dépassé d'ici quelques années. Voilà, donc je vais vous parler essentiellement, donc là j'ai fait un petit peu le tour, peut-être la bande dessinée, c'est parce que, entre autres, dans une vie parallèle, je suis aussi auteur d'une bande dessinée sur la culture scientifique, et je ferai quelques allusions. Ça c'est le premier volume sur 5 qui sont prévus, sur la naissance de la science à l'époque de l'Antiquité grecque, et puis il y a un autre volume, le prochain, qui est en cours de préparation sur la science arabe, le Moyen-Âge, et puis la Renaissance, les époques modernes, etc. Donc voilà, c'est un gros travail qu'on a entrepris avec Jean-Benoît Mébec, qui est collègue dessinateur de ce travail-là. Et donc moi je travaille à l'heure actuelle essentiellement dans le domaine de la cybersécurité, et en cybersécurité, traditionnellement, c'était un domaine qui était surtout investi par des sciences, hein, les sciences des données, l'informatique, statistique, etc. Et puis, il y a quelques années, il y a quelques mois, ils se sont aperçus qu'on plafonnait un peu en technologie, et surtout que dans des domaines comme le hameçonnage, le phishing, comme on dit, 80% des fuites de données ou des piratages proviennent d'une faille humaine. Alors depuis quelque temps, ils se disent que peut-être qu'il faudrait s'intéresser au fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui clique sur un mauvais lien et que c'est ça qui produit le problème. Et donc on s'intéresse de plus en plus à des schémas de pensée qui font que nous sommes tous amenés quelquefois à nous demander pourquoi est-ce que j'ai reçu ce message, pourquoi il m'arrive à moi, qu'est-ce qu'il me dit, pourquoi j'ai envie de cliquer sur ce lien. Et donc tout ça, c'est un certain nombre de choses qu'on est en train d'étudier pour essayer de repérer les stratégies des cybermalveillants, hein, donc ce qu'on appelle quelquefois des ingénieurs sociaux, qui sont des hackers, qui essayent de nous extorquer des données, etc. Donc ça, c'est un domaine. C'est pas exactement celui que je vais évoquer aujourd'hui, puisqu'on avait décidé de parler plutôt de questions de l'information et de la désinformation, et de savoir quels sont les ressorts de la désinformation. Pas forcément arriver à repérer si une information est juste ou fausse, ça c'est un autre domaine. Mais nous, on se demande pourquoi est-ce qu'on a envie de croire à certaines informations. Et même si on n'a pas envie de se demander si elles sont vraies ou fausses, on a envie d'y croire. Et donc c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Donc je travaille ça sur des domaines très très particuliers. Aujourd'hui, on verra, ça sera sur les vaccins. Et au départ, il y a quelque chose d'assez simple. J'ai perdu mon dongle pour la télécommande, donc je vais être obligé d'être en manuel. Alors voilà à peu près le plan. Hein. D'abord poser la question de la connaissance scientifique, puisque l'une des conclusions que j'aurai, c'est qu'il faut développer la culture scientifique et la pensée rationnelle. La confiance en la science, autre problème à développer, c'est pas la même chose que la connaissance. Je poserai la question, est-ce qu'on a besoin de culture scientifique pour réussir sa vie aujourd'hui ? Et moi, ma réponse sera oui, mais on verra qu'elle n'est pas absolument oui pour tout le monde. Ensuite, il y aura un passage un peu plus long sur mon travail sur les armes rhétoriques des désinformateurs, comment fonctionnent les désinformateurs, et puis une toute petite conclusion sur la culture scientifique et l'esprit critique. Donc voilà le plan, et donc peut-être... Pour commencer, l'idée que il est normal de ne pas tout connaître. Voilà. Il est normal d'avoir un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas. Là, si je projette ces choses-là, certains d'entre vous vous reconnaissent peut-être l'intégralité, d'autres certaines choses. Ça fait partie d'un domaine qu'on appelle le domaine de la science. Et le domaine de la science, certains d'entre nous sont plus ou moins familiers avec, et d'autres, beaucoup moins. Et donc, par contre, ce domaine nous amène à prendre des décisions. Donc, ce qu'on a ici, là, c'est par exemple, on a le VIH, on a une cellule cancéreuse, on a une chaîne d'ADN, on a une maladie, on a une protéine prion, on a un coronavirus. Voilà, tout ça, c'est des choses dont on a entendu parler, mais c'est surtout des choses qui produisent des choix dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, avec la maladie à prion, on a pu se demander à un moment donné, est-ce que je vais acheter du bœuf, le cuisiner, en donner à mes enfants ? Avec les histoires de sida, on a pu se demander, est-ce que je vais protéger mes rapports et inciter mes enfants à le faire ? Avec les questions de coronavirus, on a pu se demander, est-ce que j'adopte les gestes barrières ? Est-ce que je me fais vacciner ? Alors là, on va rentrer dans le détail sur la question de la vaccination tout à l'heure, qui est l'un des domaines qui m'a le plus intéressé il y a quelques années. En ce moment, je m'intéresse beaucoup plus à la question de la loi Duplan, qui est un travail qui est en cours, dont le premier article va sortir bientôt. Mais là, je vais revenir sur les vaccins. Sur les questions d'ADN, etc., quelle est ma position par rapport aux OGM ? Est-ce que je vais vérifier qu'il y ait des OGM dans mes aliments ? Bref, il y a d'un côté des savoirs scientifiques qui sont quelquefois trop complexes pour que je puisse les comprendre, mais d'un autre côté, il y a un certain nombre de décisions que je dois prendre pour moi, pour mon entourage. Et donc la question, c'est comment on fait le lien entre les deux ? Comment on arrive à passer d'une connaissance à une décision ? Et passer d'une connaissance à une décision, c'est souvent quelque chose qui implique l'information. Donc c'est l'information qu'on va recevoir qui va nous amener à décider à partir d'une connaissance possible de ces événements scientifiques. Alors bien sûr, cette information, elle peut provenir de plusieurs sources, elle peut être de plusieurs natures, elle peut être plus ou moins simple, plus ou moins complexe, mais en gros, on va définir deux grands types d'informations. Il y a une information d'expertise. Ça, l'expertise, ce sont des scientifiques, par exemple, ou des journalistes scientifiques, ou des sources d'informations dans des médias spécialisés, qui vont définir qu'est-ce que c'est que l'objet, d'un côté, pour que moi, je puisse ensuite, avec cette connaissance d'expert, produire une décision. Là, c'est la première source, et on pourrait se dire, après tout, c'est sans doute la plus fiable. C'est sans doute celle qui nous permettrait de prendre les meilleures décisions. Et donc, on pourrait se dire, peut-être, dans un monde idéal, si tout le monde faisait confiance aux experts, la plupart d'entre nous prendraient des bonnes décisions. Le problème, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a une source concurrente d'information. Cette source concurrente, ce sont nos affinités. Nos affinités, c'est de considérer que derrière le sida, derrière le cancer, derrière le coronavirus, derrière les OGM, derrière la vache folle, la maladie à prion, etc., et il y a des groupes qui s'organisent, qui organisent leur discours. Et ces groupes, on les fréquente plus ou moins, on les aime plus ou moins. C'est des groupes d'affinités. Donc, ça, quelquefois, prendre une décision, c'est aussi jouer ma propre position par rapport au groupe. C'est-à-dire, si... Alors là, vous me voyez venir avec mon histoire de vaccin. Si je dis que je vais me faire vacciner, ça n'est pas uniquement une question d'analyse par des experts, de la pertinence du vaccin, de son efficacité, etc. C'est aussi comment est-ce que ça me positionne par rapport au groupe que j'aime bien. Comment ça me positionne par rapport au groupe que je n'aime pas, d'être vacciné ou pas. C'est-à-dire que cette décision que je vais prendre va engager mes affinités, va engager des relations entre moi et les groupes, entre les groupes eux-mêmes, et va engager ce qu'on appelle leur identité. Et donc prendre une décision, c'est toujours un équilibre qu'on est en train d'établir entre un savoir, une expertise, d'une part, et puis d'autre part, des affinités, des représentations, qui fondent nos identités. Et c'est là que vont pouvoir se nicher énormément de désinformations. C'est quand l'information n'est plus simplement focalisée sur un objet, mais quand la connaissance des choses reflète les relations entre des gens. Et quand connaître, c'est aussi agir pour, contre, avec des gens. Et là, on a effectivement un boulevard pour certains manipulateurs qui vont manipuler l'information, pour le coup, qui vont diffuser des informations, non pas pour ce qu'elles sont en termes de définition d'objet, mais pour ce qu'elles représentent en termes d'identité. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de se donner les moyens de voir. Surtout qu'ils peuvent faire des raccourcis. Alors quelquefois, il y a des raccourcis qui sont faits par des manipulateurs, mais quelquefois pas du tout. Quelquefois, il y a des raccourcis qui sont faits par des journalistes pour nous inciter à comprendre quelque chose. Parce que, souvenons-nous, hein, quand le sida est arrivé, le sida était sans doute l'une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé, personne ne savait ce que ça voulait dire. Sida, HIV, personne ne savait ce que c'était. Ouais, et donc on appelait ça le cancer gay. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose-là. Et donc déjà, on voit l'appeler le cancer gay, c'est déjà quelque chose d'intéressant, parce que ça fixe sur une population. Ça fixe sur une maladie qu'on connaît, le cancer. Donc on va ancrer cet objet nouveau, totalement étrange, sur quelque chose qui est connu. Le sida égale le cancer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, on va intégrer ça dans une population pour marquer un certain nombre de choses. Et puis après, les choses s'emballent. Hein. Quand on avait travaillé sur les OGM, ça venait après la maladie de la vache folle, et il y avait des journaux qui titraient « Alerte à la bouffe folle ». Ou alors « Le soja fou est dans nos assiettes ». Vous voyez comment on crée des raccourcis comme ça entre des réalités qui n'ont rien à voir au niveau scientifique, mais pour arriver à informer. Et là encore, ça n'est pas de la malveillance. C'est des journalistes qui faisaient ça pour qu'on comprenne des choses. Alors que dans pas mal de cas, ce genre de raccourci, qu'on appellera tout à l'heure des heuristiques, ce genre de raccourci est manipulatoire. Donc voilà, l'idée que j'avais aujourd'hui, c'est de vous dire, la manipulation, ça n'est pas une technique à part. C'est pas quelque chose qu'on peut analyser tout seul. Ce sont des techniques que nous faisons tous à chaque fois que nous essayons de faire comprendre à quelqu'un en lui disant, avec les enfants par exemple, en disant, tu sais, ça c'est comme. Ben, à chaque fois qu'on fait un c'est comme, déjà on est dans une perversion de la réalité, et déjà on instaure un rapport d'objet qui est un rapport qui n'est pas le rapport réel. Mais quelquefois on ne peut pas faire autrement. Et donc, je viens de traiter des médias rapidement, et donc la question maintenant c'est aussi la question de la connaissance. Bien évidemment, je disais, dans un monde idéal, on devrait prendre nos décisions sur la base de nos connaissances. Et donc, on pourrait dire, il faudrait que les citoyens éclairés soient des citoyens qui connaissent. Et donc, développer la culture scientifique, développer le rapport aux choses. Alors, peut-être dans un monde idéal, mais dans notre monde, c'est pas exactement comme ça. Il faut savoir que les élèves français font partie des plus mauvais de l'Union européenne en sciences. Voilà, ça c'est. Vous avez peut-être entendu parler des études TIMSS qui sont menées régulièrement. Et qui montre que si on fait la moyenne, ben, la moyenne de toutes les notes en quatrième et en cinquième, je crois que c'est en CM2 et en quatrième, quand on fait les moyennes, ben, on a des très très mauvaises notes des Français par rapport à tous les autres pays de l'OCDE. Il faut savoir aussi que la familiarité avec les sciences baisse. Ça, c'est une enquête d'un institut qui s'appelle Science and New, qui fait aussi un baromètre assez régulier, et qui montre que ce n'est pas une question de compétence, c'est aussi une question de familiarité, c'est-à-dire de proximité. Est-ce que les gens mobilisent facilement les sciences dans la résolution de leurs problèmes quotidiens? Vous avez le fameux classement PISA, hein, qui sort régulièrement, et qui montre que la France est en échec. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la France est en échec à la fois sur le plan de l'équité et de l'excellence. L'excellence, c'est simple, c'est le nombre de personnes qui ont les meilleures notes dans un pays. Et un autre indicateur qui est encore plus intéressant, c'est l'indicateur de l'équité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent à peu près à la moyenne. Et donc plus il y a de personnes qui arrivent à la moyenne, plus il y a une équité, c'est-à-dire qu'il y a une distribution de la performance qui est à peu près équitable. Ben, la France est mauvaise sur les deux indicateurs. À l'entrée en sixième, la plupart des élèves ignorent le sens des fractions les plus simples. Ça, c'était une note d'alerte du Conseil supérieur du Conseil scientifique, pardon, de l'éducation nationale. Et alors, comment ils mesuraient ça? Premier exercice de la soirée. Voilà. Un exemple, placer un demi sur cette règle graduée. Donc c'est un exercice qu'on demandait à faire à des élèves de sixième. Alors où est-ce que vous placeriez un demi? Bah, je ne veux pas distribuer une feuille blanche, mais il y a des chances pour que vous le mettiez à peu près là, un demi. Voilà. Alors, la question c'est que la majorité des élèves ne le mettent pas là. il y a 78% d'erreurs à ce test en 6e. Alors, sur les erreurs, il y en a qui le mettent à 1, il y en a qui le mettent à 1,2, beaucoup, il y en a qui le mettent à 1,5. Bon, il y a plein de réponses. Il y en a une que j'accepterai éventuellement, c'est 2,5, parce que vous avez des élèves qui peuvent se dire, comme on a une règle en 5, 1,5, mais c'est très rare. C'est malheureusement pas l'erreur la plus fréquente, sinon on pourrait reconnaître que ça n'est pas une erreur. Clairement, une bonne réponse, logique. Mais les 1,2, par exemple, qui est une erreur qu'on voit très souvent, ne peut pas être comprise, enfin, on n'a pas trouvé de modèle mathématique qui permette de ramener 1,5 à 1,2. Donc voilà un certain nombre de choses qui nous alertent régulièrement sur le niveau. Et surtout, dernière information là-dessus, un énorme déficit dans toute la scolarité, mais surtout chez les filles. Donc, ils ne sont pas lisibles trop mes graphiques là, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez que ici, il y a des différences entre les garçons et les filles. Elles sont systématiques dans toutes les études. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination extrêmement importante vis-à-vis des filles par rapport à la science et par rapport à l'apprentissage des mathématiques en particulier. Deuxième chose aussi, grosse baisse du niveau en mathématiques, surtout après la réforme du bac, la dernière réforme de 2012. Donc on a un certain nombre d'indicateurs qui vont tous à peu près dans le même sens. Là vous avez la, ça c'est celle de 2022. Vous avez la baisse drastique du niveau, enfin du choix des mathématiques, et toujours pareil pour les garçons et pour les filles. Hein. Pour les filles, on était à peu près à 40%, on est tombé on est tombé à 14-15% de filles qui choisissent les sciences. Donc on va vers une société où la discrimination entre les garçons et les filles sur la performance mathématique va être de plus en plus importante. Alors bien sûr, là je parle des jeunes, mais les mêmes choses ont été faites avec des adultes. Hein, et donc là, ben, ça ne va pas vous étonner beaucoup, sur l'OCDE. Les adultes français font aussi partie des adultes les plus faibles des pays de l'OCDE en performance mathématique, mais aussi en lecture, hein, puisque vous avez à gauche, ce sont les données pour la lecture, à droite, ce sont les données pour les mathématiques. Et sur les deux niveaux, on a un déficit. Donc en fait, on a un problème de formation aux enseignements fondamentaux chez les jeunes et chez les adultes. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est d'où ça peut venir ?
Oui.
Et qu'est-ce que ça peut produire? D'où ça peut venir? Ça peut venir entre autres de la confiance. Quel est le niveau de confiance des gens dans la science? Parce que bien évidemment, on peut se dire, si les gens ont confiance dans la science, ils vont être un peu plus motivés à apprendre les sciences. Donc on a testé certaines études qui ont testé le niveau de confiance. Alors, peut-être avant le test, peut-être une petite idée comme ça, des phrases que j'ai prises au hasard, non pas au hasard du tout, mais que j'ai prises dans la presse. Qui a dit, par exemple, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur? Est-ce que vous savez qui a dit ça?
Non.
Pas du tout. Alors ça, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, et c'était discours de Latran, le 20 décembre 2007. Discours de Latran parce que automatiquement le président de la République française est chanoine de Latran. C'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup parce que la plupart des présidents n'en font pas grand cas. Mais lui, il était allé à Latran, il avait tenu un discours et donc il avait notamment dit cette phrase magnifique. Une autre, expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Vous voyez pas ? Celle-là, elle a fait énormément de bruit dans le milieu des sciences humaines et sociales. Parce que c'était Manuel Valls qui avait dit ça et qui l'avait dit lors de la commémoration de l'attaque terroriste contre l'hypercacheur. Et il voulait dire qu'effectivement, les sciences humaines et sociales qui essayaient de comprendre le terrorisme, en fait, essayaient de l'excuser. On avait eu beaucoup de mal à faire comprendre à Manuel Valls que c'était deux choses différentes. Essayer de comprendre quelque chose n'était pas du tout essayer de l'expliquer, c'était au contraire une forme de combat aussi du fait de l'événement terroriste. Je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison. Non, c'est pas Bolloré, c'est Emmanuel Macron, président de la République, qui avait dit ça sur le site de l'Express. Alors bien évidemment, pour un certain nombre d'entre nous, l'idée qu'il y ait une continuité entre la religion et la science, n'est pas acceptable de fait. Ce sont des raisonnements qui sont complètement différents. Après, par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours une incompatibilité. Et l'histoire des sciences, justement, montre, notamment l'histoire des sciences arabes, montre qu'il y a un ancrage dans la religion qui n'a pas empêché, notamment, le développement de l'algèbre. Je connais, ah, je l'adore celle-là, je connais, je respecte la vie des scientifiques, le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Celle-là est particulièrement magnifique. Alors, lui, c'est Patrick Pouyanet, PDG de Total Energy, donc à l'université du MEDEF, bien sûr. Celle-là, bon, ça fait partie du Panthéon, ça. Nous devons donc être très attentifs à éviter le développement d'un dogme qui serait celui d'une science officielle, ce serait toujours tout à fait dangereux. Là, il est un peu moins connu, parce que c'était l'un de nos derniers ministres de l'enseignement supérieur. Mais vous savez qu'on en a eu beaucoup récemment, un petit peu de succession. Et donc voilà, et ça c'était intéressant parce qu'il voulait supprimer l'article 4 d'une loi contre les dérives sectaires. Et cet article 4 était celui justement qui refusait de combattre les faits alternatifs et les théories sectaires au nom de la science. Donc vous voyez que pour les gens qui nous dirigent, hein, pour nos élites, la question de la confiance dans la science se pose déjà, et alors ça vient peut-être du fait que, ça c'est une étude qui a été faite par l'Institut Recto-Verseuil, qui montrait que sur une vingtaine d'années, hein, entre 2000 et 2018, si on faisait l'inventaire de tous les ministres qu'on avait eus et de leur formation, ce qu'on voyait c'est qu'il y en avait très très peu qui avaient une formation scientifique. La plupart ont une formation en droit, sciences politiques, en sciences po, l'ENA, sciences économiques, lettres, histoire, géo. On arrive à médecine, pharmacie, vétérinaire, 7%. Donc là, c'est un petit peu plus. Si on rajoute, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dessous, si on arrive à 10%, si on rajoute les sciences, là, oui, le numéro 14, on arrive à 10%. Donc on peut imaginer 90% des gens qui nous dirigent n'ont pas de culture scientifique. On peut dire que ça ne serait pas très grave s'ils savaient s'entourer de gens qui, eux, ont une culture scientifique, de conseillers. Mais la même étude a été faite sur les conseillers des ministres. On s'aperçoit qu'ils ont le même profil que les ministres. Ils viennent des mêmes écoles. Donc, on n'est pas dirigé directement, ni dans le pouvoir économique, ni dans le pouvoir politique, par des gens qui ont une culture scientifique, qui ont une rationalité scientifique. Ils ont plutôt une culture gestionnaire, politique, administrative, mais la science n'est pas dans leur première préoccupation. Du coup, la question, elle va se poser. Alors, je passe, il y a tout un tas d'articles qui ont été écrits au moment du coronavirus, certains. Alors vous voyez des articles dans des revues qui sont connues, hein, comme Natural Science. Ça c'est un peu moins connu, mais je vous le conseille. C'est la revue de l'Association française de l'information scientifique, et c'est une revue qui s'appelle Science et Pseudosciences et qui a fait un inventaire là-dessus. Donc effectivement, un problème dans la gestion, notamment des crises sanitaires, le problème du déficit de culture scientifique au plus haut niveau de l'État, et même dans les appareils au sens large, ce qui a pu produire un certain nombre de dérives dont vous vous souvenez tous au moment du coronavirus, etc. D'autres choses sur la confiance, ben, quand on va les regarder un peu plus loin, on voit que les Français sont les plus méfiants des pays européens vis-à-vis de la science. On voit aussi que, alors là, je ne vais pas les décrire complètement, mais vous voyez, quand on pose des questions sur, à votre avis, est-ce que les scientifiques savent comment fonctionnent les choses, ben, la France est avant-dernière à penser que oui. Bon, tout un tas d'indicateurs, je ne vais pas tous les développer. C'est une étude extrêmement complexe, celle-là. Mais si on la résume peut-être par celui-là, vous voyez que, est-ce que vous pensez que la science apporte à l'homme plutôt plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, autant de bien que de mal, où les gens ne peuvent pas avoir d'opinion? Vous voyez que le autant augmente, et que surtout le plus de mal que de bien augmente régulièrement. On est passé de 5% dans les années 70 à 12% aujourd'hui. Et donc on a aussi des choses comme, pensez-vous qu'on s'en remet trop à la science et pas assez à la foi? On a à l'heure actuelle 27% des gens qui sont d'accord avec ça. Ce pourcentage est en augmentation régulière. Donc l'idée de la confiance dans la science évolue beaucoup. Les gens disent qu'ils sont intéressés par la science, alors par certaines formes de science, mais encore une fois, il y a de fortes disparités, c'est là que je vais vous montrer des choses un peu complexes, mais sur les choses, ça résume assez bien, c'est un baromètre qui est fait par un institut d'esprit critique, par l'Univers Science, une association. Et vous voyez que la science fait partie des domaines qui baissent en intérêt. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? Alors, il faut savoir que 3 Français sur 4 pensent qu'ils ont de l'esprit critique. Ah, c'est-à-dire, oui, je pense avoir un certain esprit critique quand même. Alors après, on leur demande, qu'est-ce que c'est pour toi d'avoir l'esprit critique? Alors ils disent, c'est faire preuve de raisonnement et de logique rationnelle. Très bien. C'est être capable d'échanger avec des personnes qui ne pensent pas comme moi. Très bien. C'est m'informer avant de prendre position. Super. Mais par contre, est-ce que c'est la capacité à se méfier de mes propres intuitions? Là, non. Là, non, mes propres intuitions sont les meilleures et je vais m'informer un petit peu. Mais par contre, mes intuitions, mes croyances, ça par contre, c'est immuable. Ça j'y tiens. Et on va voir que ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est là que se niche la question de la manipulation. C'est dans des gens qui sont tellement fortement ancrés sur leurs propres croyances et sur leurs convictions qu'ils ont raison, que même s'ils ont l'impression d'aller chercher de l'information, ils ne se laissent pas convaincre par cette information, quelle que soit la source, que ce soit une source d'affinité, comme tout à l'heure, ou que ce soit une source d'expertise. Et donc, si je reste attaché à mon opinion, et que je cherche une information et qu'un expert me dit que mon opinion n'est pas bonne, je vais contester l'expert. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. C'est à la remise en cause d'un certain nombre d'experts et d'institutions d'experts, notamment l'université, mais pas uniquement, parce que les gens préfèrent rester attachés à leur croyance, parce qu'elle les relie entre eux, elle fait lien social, cette croyance, plutôt que de se laisser convaincre par une information scientifique. Et donc, le débouché, c'est ça, et c'est en plus porté, vous voyez que ça boucle, c'est porté par tous les institutionnels qui nous disent que finalement, la confiance dans la science, c'est pas absolu. Alors pour avancer un petit peu sur ces questions-là, non, là on n'avance pas. Là. Voilà, je vais vous montrer quelques petites choses amusantes. Là. Pas rigoler un petit peu. Celle-là, j'aime bien, celle-là, c'est la première, c'est donc le site de Donald Trump qui titrait « Attention, donc Breaking News, attention, Zohran Mamdani, vous savez, c'est l'actuel maire de New York, hein, va demander que tous les élèves des écoles élémentaires apprennent les chiffres arabes. C'est super dangereux. Les chiffres arabes. Et là, vous voyez, alors ça, c'est aux États-Unis, on se dit, ouais, bon, d'accord, c'est Trump, c'est les États-Unis. Voilà, en Allemagne, la même chose. Un débat dans la campagne de l'élection à la mairie d'une petite ville qui est proche de la France. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, de façon un peu satirique, selon le code de la construction, paragraphe 126, chaque propriétaire est obligé de marquer son habitation avec un numéro donné par la municipalité. Or, je trouve inquiétant qu'à Völklingen, autant de numéros de maisons soient en chiffres arabes. Que comptez-vous faire contre cette invasion étrangère insidieuse? Et le candidat d'extrême droite dit « Attendez que je devienne maire, je vais changer ça, il y aura des chiffres normaux. » Donc effectivement, là, la question de la connaissance et de la confiance dans la science se pose par un certain nombre de parties, mais pas uniquement. Alors d'autres choses plus légères, moi j'avais beaucoup aimé ça. Alors ça a 2 ans, hein, donc les choses ont un peu évolué dans ce que je vais vous raconter. Mais... plus besoin d'être bon en maths, cette application scanne vos exercices et les fait à votre place. Basée sur une approche pédagogique, elle permet d'obtenir le raisonnement et différentes étapes de nombreux calculs mathématiques. Plus besoin d'apprendre les équations, ChatGPT le fait pour vous. Alors on a essayé quand même. On a essayé, alors c'est là que c'est un petit peu ancien, apparemment il s'est un peu amélioré. Mais j'ai quelques résultats pas mal de plus récents. C'est ce qu'on appelle le problème d'Alice. Le problème d'Alice, c'est le suivant. C'est un problème très fameux en logique et très simple. Hein. Vous allez voir, Alice a 4 sœurs et un frère. Okay. Alice a 4 sœurs et un frère. Question, combien de sœurs a le frère d'Alice? Je cherche un tout petit peu. Alice, 4 frères, 4 sœurs, un frère. On réfléchit, bon, et on demande à des grands modèles de langage, des LLM, comme ChatGPT ou d'autres. Alors, dans la vie, Alice a quatre sœurs, elle a également un frère. Combien de sœurs a le frère d'Alice ? Réponse de... Ça, c'est ChatGPT. Réponse de ChatGPT, le frère d'Alice a le même nombre de sœurs qu'Alice, donc quatre sœurs. Alors l'opérateur humain lui dit, t'es sûr ? ChatGPT, oui, j'en suis sûr. Puisque Alice a quatre sœurs, son frère partage les mêmes sœurs qu'elle, donc le frère d'Alice a bien quatre sœurs. Opérateur humain, quel est ton raisonnement ? Alors voilà, raisonnement. Le raisonnement est le suivant. Alice a quatre sœurs, ce qui signifie qu'il y a cinq filles en tout. Alice plus ses quatre sœurs. Alice a également un frère, donc il y a un garçon dans la fratrie. Comme le frère d'Alice fait partie de cette même famille, il a aussi quatre sœurs, les mêmes qu'Alice, puisqu'elles sont toutes dans la même fratrie. Donc, le frère d'Alice a également quatre sœurs. Voilà. Donc, on va pas tout de suite donner tous nos problèmes à régler à ChatGPT. On va attendre un petit peu. Pour ça, je vous dis, nos modèles statistiques de base sont encore un petit peu plus stables. Ça, c'est le tout dernier que j'ai trouvé. Je trouve très très mignon, puis en plus celui-là par contre il est récent. Je dois aller au car wash, donc à la station de lavage de voiture. Il est à 150 mètres de chez moi. J'y vais à pied ou en voiture? Vous voyez arriver le truc.
Ouais.
Donc on a testé deux modèles de langage, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Le premier dit à 150 mètres, va à pied dans la plupart des cas. Plus simple, pas besoin de regarder sa voiture ni de manœuvrer sur une circonstance. Plus logique, tu évites de rouler juste pour aller laver ta voiture et de la ressalir un peu sur le trajet du retour. Quand même, le modèle de langage est puissant de ce côté. Et puis le temps, 150 mètres, c'est 2 minutes à pied. Alors quand même, marche. Alors Claude a été meilleur hein, en disant que... il dit en voiture Mathieu, le car wash aura besoin de ta voiture sur place pour la laver, difficile de la nettoyer à distance. Claude a été un petit peu meilleur sur ce truc. Donc c'est pour ça que ça avance, mais attendons un peu avant de livrer tous nos problèmes, y compris de gouvernance. Alors pourtant quand on arrive, donc on a une réponse à ce qu'on a besoin de culture scientifique pour réussir sa vie. Oui, il faut quand même contrôler le raisonnement de ces machines. Et pourtant, l'actualité n'est pas extrêmement enviable de ce côté-là. On sait qu'on a un retour de la pensée magique, retour de la sorcellerie, voodoo, chamanisme, pseudo-médecine, philosophie New Age, et que tout ça a des relations avec le complotisme, le survivalisme. Donc ça, tout ça, ce sont des rapports qui sont produits par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, comme la MIBILUD, l'UNAFI, le GEMPI, donc l'observation des dérives sectaires, et puis la Ligue des droits d'homme. Donc on a un certain nombre de choses. Alors vous allez voir des choses qui ont été testées hein, à l'époque sur la FNAC, sur le site de la FNAC, mais ça marchait aussi avec Amazon et dans plusieurs pays. Les premiers à avoir attiré l'attention là-dessus, c'est des Suédois, qui disaient que lorsqu'on tapait Covid-19 sur la FNAC, les premiers livres qui apparaissaient étaient des livres complotistes. Notamment celui de Pierre Aymar qui disait que Covid était la plus grande manipulation biologique, politique et médiatique de tous les temps. Et Amazon aussi renvoyait tout un tas de livres complotistes. Et donc c'était un terrier de lapin pour les complotistes. On a la question de l'agriculture, donc des liens entre la biodynamie et l'anthroposophie par exemple, donc, qui ont été avérés par un certain nombre d'études. Qui montre que, alors derrière la biodynamie, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a aussi, à un moment donné, ces relations qui passent par certains labels. Mon collègue J.B. Maybeck a écrit une trilogie Cosmobacchus sur toute une étude qu'il a faite sur les liens entre la biodynamie et l'anthroposophie. Donc il y a des choses aussi dans l'éducation, au travers notamment de la méditation pleine conscience. Ça ne veut pas dire que toute la méditation pleine conscience est liée à des dérives sectaires, mais c'est une voie d'entrée possible, donc il faut toujours être prudent. Aussi du côté de la psychologie positive, voir le livre Apicratie, avec des thérapies de douches de lumière, des choses comme ça aux enfants. Donc là aussi, des pédagogies aussi, Steiner Waldorf, et tout un tas de retours de la pensée un petit peu magique. Quand je dis magique, sur la question de l'anthroposophie et Steiner Waldorf, on est au-delà de ça. Sur l'université, moi j'ai eu connaissance dans notre région, hein, j'aime beaucoup ce master de l'université de Montpellier qui s'intitulait « Vers une bienvivance et une approche du care et quantique du leadership capacitant et vibratoire ».
Waouh.
C'était en infocom ou en source de gestion. Je crois que c'était en infocom. Et donc c'était pour former des leaders à base de théorie quantique. Alors aux dernières nouvelles, ils auraient enlevé le quantique, mais ils auraient gardé le reste. Il y a ici à Toulouse un laboratoire des expériences sensibles pour trouver le flow et la plénitude harmonieuse par le yoga méditatif, la communication végétale et la danse 5 rythmes. Voilà, on peut se demander si c'est à l'université qu'on peut faire des recherches comme ça. Au travers de compétences psychosociales qui sont un vrai problème, hein, qu'il ne faut pas du tout négliger, mais quelquefois se cachent des choses du style, ça c'est aussi une formation que j'ai vue, nettoyage et libération des mémoires cellulaires, hypnose humaniste, soins quantiques avec des ondes, analyse d'aura, etc. Donc dans l'éducation, dans l'université, on commence à voir arriver des pseudo-sciences. La santé, notamment la santé mentale, mais pas uniquement, donc au travers de certaines médecines, il ne faut pas toutes les mettre dans le même bain, hein. Il se fait des choses très très bien, mais quelquefois il y a des choses très très bizarres, et puis surtout il commence à y avoir des liens entre certaines sectes, là c'est vraiment le cas, certains organismes d'État et certains organismes économiques. Il y a des choses autour. Moi, j'aime beaucoup la crème quantique de Guerlain, par exemple. La crème quantique, c'est rien qu'en soi, on peut se demander à quoi ça peut renvoyer, mais bon, c'est des choses qui ont existé, je crois que ça n'existe plus. En entreprise, notamment au travers des formations au bien-être, du coaching, etc., la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes a montré que 80% des formations au bien-être présentaient des caractères d'anomalie. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas traçable, qui n'était pas sourçable, dont les principes eux-mêmes n'étaient pas avérés. Donc voilà, c'est un marché qui peut ouvrir la voie à tout un tas de choses. Et bien sûr, il y a un certain nombre de dérives sectaires qui passent par ces marchés-là pour rentrer dans la culture, dans l'éducation, dans la santé, dans l'entreprise. J'ai beaucoup aimé le béton astral.
Ah ouais.
Béton astral, c'est quelque chose qui est commercialisé par une entreprise suisse. C'est une petite fiole bleue qu'on met dans le béton, et quand vous l'avez mis dans le béton, ben forcément, votre maison, vous allez être beaucoup mieux dedans. Mais beaucoup mieux. Donc, et c'est vendu cher. Hein, et ça, aux dernières nouvelles, j'étais allé voir il y a quelques mois, c'était toujours commercialisé. L'État français soutient les sourciers géobiologiques sur les chantiers d'éoliennes. Ça, c'est un bide que j'ai fait. J'étais en Bretagne il y a 4-5 mois, juste à la porte d'entrée de la forêt de Brocéliande, une petite librairie qui est tenue par deux anciennes docteurs en chimie et biologie, et qui m'avaient demandé d'intervenir pour ma BD. Et tout le reste est allé, puis quand je suis arrivé là, ça a coincé un petit peu. Ah oui, non, mais la géobiologie, ah non, mais c'est extrêmement important, la géobiologie, parce que nous, on le sait, quand on met des éoliennes, elles mettent des ondes, etc. Et donc, si on a une étude géobiologique et qu'on les déplace, qu'on les met plus loin de chez nous, plutôt vers les voisins, on va beaucoup mieux. Et donc, voilà, il y avait cette croyance très forte. Alors après, c'est vrai que je n'avais pas réalisé que c'était la forêt de Brocéliande, qu'il y avait quand même une culture magique assez forte, et qu'il y avait une tolérance, une perméabilité à la pensée magique et aux philosophies New Age beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc voilà, un certain nombre de choses qui nous environnent, hein, et qui brouillent les messages. C'est-à-dire qui nous font dire que finalement, une information est une information. Des gens comme ça qui commencent à être reconnus, à être financés par l'État, qui commencent à être financés sous forme d'organismes de formation pour intervenir dans des écoles, dans des universités, etc. Moi, j'ai vu dans mon université des intervenants, là c'était sur la méditation pleine conscience appliquée à l'enfance en difficulté, et impossible de tracer les intervenants. C'est-à-dire que même avec tout ce qu'on appelle les procédés de dosing, hein, donc de recherche de personnes, on n'arrivait pas à savoir qui étaient les intervenants. Et ça posait visiblement de problèmes à personne de faire intervenir à l'université en formation de futurs thérapeutes des gens dont on ne savait pas qui ils étaient et d'où ils venaient. Donc voilà, vous voyez que par rapport à ça, on a un environnement qui n'est pas favorable à la culture rationnelle, à la transmission d'une culture scientifique et d'une pensée qui soit une pensée rationnelle. Alors bien sûr, je vais passer à mon chapitre suivant, l'un des plus forts phénomènes qu'on a connus récemment là-dessus, c'était autour du coronavirus. Alors, autour du coronavirus, moi je me suis intéressé à un discours qu'on retrouvait dans un film qui s'appelait Hold Up. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À l'époque, il a fait quand même pas mal de bruit. Hold Up, donc, ça a été réalisé par Pierre Barnérias. Et quand il est sorti, en 2020, il a tout de suite été dénoncé pour complotiste. Il y avait là-dedans tout ce qu'on pouvait imaginer de grands personnages du complotisme, donc opposé à la vaccination. Mais, encore une fois, et je vais vous le montrer, opposé à la vaccination ne veut pas dire complotiste. On peut être opposé à la vaccination pour des bonnes raisons. Et ça, nos études l'ont tout à fait montré. L'une des grandes erreurs qui a été faite en communication politique, c'est tout de suite de cataloguer les gens qui refusaient le vaccin comme étant des complotistes, alors qu'il y avait tout un tas de personnes qui, pour de bonnes raisons, ne voulaient pas être vaccinées. Et puis on verra aussi qu'il peut y avoir des complotistes chez les pro-vax. Mais ce film-là, c'était quand même un film qui faisait la part belle à tous les faits alternatifs, à toutes les théories de complot. Donc l'idée, c'était d'essayer d'étudier un petit peu, vous voyez, dans les acteurs principaux, Luc Montagnier, Christian Perronne, etc., Marty de Bonheur. Donc c'est des gens qui se sont fait connaître comme étant vraiment des anti-vax complotistes. Donc en fait, en cherchant un petit peu, il y avait finalement trois films. C'est beaucoup polarisé sur un parce que celui-là a été officiellement condamné pour complotisme. Donc il a dû être retiré des plateformes. En ce moment, il est assez difficile à trouver. J'ai dû mettre des copains qui sont spécialistes pour aller chercher les choses dans les tréfonds d'Internet pour aller retrouver les traces de Hold Up. Et les deux autres sont encore moins connus. Donc Hold On et Hold Out. Donc on a trois films dont on dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'organismes, que c'est des films complotistes sur la vaccination. Du coup, comment on travaille ? On va extraire de ces trois films les paroles. Moi, je ne travaille que sur les paroles. Si on travaille, j'aurai quelques images que je vais vous montrer. Si on travaille sur les images, il y a aussi des choses à faire. Moi, je travaille sur les paroles. Donc, j'ai extrait, alors avec une intelligence artificielle, qui a un logiciel qui s'appelle Whisper, et qui est fait par OpenAI, donc le même que ChatGPT. Et donc, on peut avoir accès à ça. On lui donne les vidéos, et puis lui, il extrait les paroles. Donc, c'est assez pratique quand on veut retranscrire tout un tas de paroles enregistrées, hein, que ce soit des entretiens ou des films. En plus, les films, même avec une bande sonore ou avec une post-synchronisation, hein, c'est-à-dire, enfin, même pas une post-synchronisation, avec une voix qui se rajoute à une autre voix, il arrive quand même à faire la part. Donc c'est quand même relativement performant. Donc on ressort toute la bande-son et on va faire là-dessus ce qu'on appelle, nous, de l'analyse de données textuelles massives ou textométrie. Donc avec un logiciel qu'on produit dans mon laboratoire, Pierre Ratineau, qui est un de mes collègues du LERAS, qui développe en logiciel libre, je dis parce que j'ai repéré qu'il y avait des gens qui étaient assez proches du logiciel libre. Donc c'est en Python et c'est sur une base de R, qui est un logiciel libre de traitement statistique et mathématique. Et en gros, quand on a une masse de texte comme ça, on va essayer de cartographier le vocabulaire, de classer le lexique, de tracer des profils si on a ce qu'on appelle des métadonnées, donc des informations sur qui parle, dans quelle situation il est, etc. On va essayer de profiler et puis on va essayer d'extraire des contextes significatifs. Donc comment ça marche ? Ça va être les 5 minutes de traitement statistique, mais il faut que vous imaginiez que vous auriez un jeu de cartes, de 52 cartes, qui est tout mélangé et que vous voulez classer. Donc comment vous allez faire avec un jeu de cartes ? Ben, vous allez d'abord prendre les noirs d'un côté, puis les rouges de l'autre côté. Et puis après, dans les noirs, vous allez mettre les piques et les trèfles, et puis dans les rouges, vous allez mettre les cœurs et les carreaux. Et là, vous aurez donc, vous êtes parti du tas de cartes, et puis vous aviez deux classes, les rouges et les noirs, et puis quatre classes, les piques, les trèfles, les carreaux et les cœurs. Et puis là-dedans, vous allez pouvoir mettre d'un côté les figures, et puis de l'autre côté, les cartes chiffrées. Et donc, vous faites une classification descendante. C'est-à-dire que vous partez d'un ensemble de choses et vous classez au fur et à mesure. C'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on va partir de tous ces mots, de tous ces textes des films, et on va essayer de les classer comme ça. Alors la seule chose, c'est qu'on n'a pas de rouge, de noir, de pique, de cœur, de carreau et de trèfle. Donc il va falloir définir des critères statistiques pour arriver à classer. Mais la logique, c'est ça. Je pars du tas de mots mélangés et j'essaye de les classer avec une logique statistique. Et donc la logique, c'est la suivante. en part du corpus, on le nettoie un peu, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des choses qui sont pas très propres, que la machine a du mal à reconnaître. Alors on fait un certain nombre d'opérations de linguistique automatique sur lesquelles je passe, et puis on va arriver à ce qu'on appelle un tableau lexical. Le tableau lexical, c'est un tableau de 0 à 1, dans lequel finalement on regarde les mots en ligne, et puis les paragraphes en colonne. Et si un mot apparaît dans un paragraphe, on met 1. Si un mot n'apparaît pas dans un paragraphe, on met 1-0. Donc on construit purement et simplement un tableau statistique. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'on a des lignes qui se ressemblent et des lignes qui ne se ressemblent pas. Là, j'ai colorié en bleu des lignes qui se ressemblent entre elles, enfin des colonnes, pardon, si je commence à confondre les lignes et les colonnes. On a des colonnes qui se ressemblent, les bleues, et vous voyez que quand il y a 1-0 dans une bleue, il y a très souvent, à quelques erreurs près, il y a 1-0 dans l'autre. Et puis les rouges se ressemblent, quand il y a 1-0 ou quand il y a 1 dans l'une, ben, il y a 1-0 ou 1 dans l'autre. Et donc l'idée du traitement statistique, c'est de se dire, à partir de simplement d'une représentation matricielle, hein, d'une matrice d'une matrice binaire de 0 à 1, ben, on va pouvoir définir deux classes, la classe des bleus et la classe des rouges. Ben, à partir de là, on va regarder laquelle est la plus grande des deux, et puis on va refaire ce tableau. Et on aura une bleue, une rouge et une jaune. Et puis on va prendre la plus grande des trois, on va refaire ce tableau. On aura une bleue, une rouge, une jaune, une verte. On prend la plus grosse des quatre, et etc. Et on va, de ce côté-là, construire une arborescence de lexique, qu'on appelle un dendrogramme, c'est-à-dire un arbre de classification. Et cet arbre de classification, ça va être le résultat de la classification purement statistique d'un ensemble de données textuelles, d'un ensemble de mots. Et donc là, ça nous donne un résultat. Voilà, après on interprète les classes. Ça nous donne un résultat comme ça. Voilà la première sortie, toujours un peu, c'est toujours un peu brutal, une sortie d'ordinateur, comme ça, on se dit, voilà, on a une arborescence, on voit assez bien, puis on a des mots. Et là, à partir de là, ben, on sait que ces mots, ils viennent des films, des trois films complotistes sur les vaccins, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? On voit quand même qu'il y a deux blocs. Vous voyez, si on part d'en haut, il y a une classe 1 qui se sépare, là, qui est toute seule. Elle est à part. Puis après, il y a une autre séparation, il y a la 2, la 3 et la 4 qui sont ensemble. Et puis là, il y a la 5, la 6, la 7 et la 8 qui sont ensemble, sont à peu près liés. Donc on se dit, tiens, déjà il faut aborder ce résultat de trois façons. La 1, la 2, 3, 4 et la 5, 6, 7, 8. Et là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elles contiennent. Et ce qu'on va voir, c'est que La première, c'est souvent du discours scientifique. La structure du vivant, l'ARN, la protéine. On voit le mot intelligence, on dit tiens, par rapport à un virus, on verra tout à l'heure que c'est important. Mais il y a globules, ADN, cellules, organes, particules, complexité. Donc on a une première classe, là, on dit bah tiens, dans ces films, il y a quand même un discours scientifique. Deuxième classe. On a quelque chose qui est assez subjectif. Hein, on voit apparaître des malades. Alors là, c'est les images que j'ai sorties du premier film. On va avoir les effets secondaires du vaccin, etc. Puis on voit femmes enceintes, on voit d'autres personnes âgées. Donc un certain nombre de cas et de récits de vie. On a aussi de la famille, là. Hein, papa, maman. On a prise de contact, téléphone, un collègue, un médecin, etc. Et puis on a l'enfant aussi qui est à part, qui vient à peu près de la même famille, mais toute la question des enfants, on voit perdre, père, parent, fils, refuser, etc., guérir, mourir, souffrance. Donc on a quelque chose qui est très de l'ordre du subjectif, de la narration personnelle. Et puis on a un troisième bloc là, qui est plutôt, que j'appelle « à qui profite le crime ?» Hein, c'est-à-dire donc le coronavirus et ses liens avec les grandes finances, Bill Gates, les grands manias de la finance. Hein, donc on a là Bill Gates qui est représenté, mais il y en a d'autres. Bien sûr Big Pharma, le laboratoire pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, avec le Lancet Gate, etc. donc le journal scientifique qui a produit un article et puis qui a rétracté ensuite, donc il y a tout un scandale. Et puis donc le système économique financier, en gros, il y a des gens qui font de l'argent sur le virus, il y a des gens qui, à partir du virus, produisent du pouvoir, et puis il y a des gens aussi qui essayent de nous empoisonner, mais ça on y reviendra après. Donc voilà comment on lit ce genre de choses, et déjà vous commencez à voir s'établir un certain nombre de façons d'en parler dans le discours purement complotiste. Et donc si on regarde un petit peu en détail, on regarde d'abord cette première classe scientifique. Et là on voit, c'est tout de même surprenant de voir des structures pareilles, regardez ça, et là vous voyez à l'intérieur une couleur rouge qui démontre bien, voilà, et du vert, que c'est une structure vivante qui mène de l'ADN à l'ARN. Donc là on a quelqu'un qui regarde au microscope, et qui regarde à un moment donné un échantillon, et qui est en train de dire, ça se développe, c'est quelque chose qui est autonome, c'est quelque chose qui est intelligent, c'est quelque chose... voilà. Et donc il y a la création à partir de quelque chose qui a l'air scientifique, et qui est mis en scène comme quelque chose de scientifique, d'une véritable mythologie. Ce sont des forces vivantes, donc là on parle du vaccin, hein. On parle même quelquefois des excipients de vaccins. Ce sont des formes vivantes qui s'organisent dans nos corps sous couvert de vaccins. Pourquoi ces structures forment-elles de véritables réseaux de communication comme pour répondre à une intelligence dont on ignore tout? Donc l'idée que le vaccin, finalement, quand on le regarde au microscope, il nous révèle une sorte d'intelligence, mais presque surnaturelle. Hein. Ça n'a rien de vraiment scientifique. Mais il y a une nécessité d'essayer d'établir avec des faits, avec des observations et avec du langage scientifique, un certain nombre de théories complotistes. Donc là, c'est vraiment essentiellement des grandes séquences sur des observations microscopiques de dernière génération. Alors, tout de suite, quand on dit ces deux dernières générations, ça prouve que c'est quand même quelque chose de très récent, de très, très moderne. Donc une structure complexe, un cristal, un champignon, donc c'est ça qu'on nous a injecté, hein. Une hydre, des vers, des cerveaux, une plante invasive, donc des formes qui n'existent pas dans la nature, des très grosses structures, des réseaux de communication avec des nœuds, il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « c'est un réseau autoroutier, une antenne connectée à une autre antenne, un logiciel prêt à être activé ». Et comment à partir de là se construit le discours? Et donc, voilà, des questions, des surprises, beaucoup de termes sur « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Oh là là, mais c'est ça qu'on nous a injecté, n'importe quoi. » Donc, qu'est-ce que ça fait dans un vaccin? C'est toujours toute la question. Donc, avec une tonalité assez anxiogène. Deuxième discours, là, on passe dans « À qui profite le crime ?» L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères déterminés par des entreprises qui contrôlent les données personnelles qui circuleront de façon dématérialisée. Donc on arrive à un système de contrôle. La liberté va devenir un lointain souvenir. Les dirigeants du monde sont complices, les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique et mondial. Voilà. Donc là on est dans le complot lui-même, de certaines puissances qui utilisent la pandémie pour prendre le contrôle et ensuite donc fournir des vaccins. Un homme d'affaires chargé par l'OMS de trouver un médoc à vendre à la communauté internationale pour combattre la Covid. Il est donc l'intermédiaire entre les médecins prescripteurs de molécules et l'industrie pharmaceutique. Là, tous les mots sont soigneusement choisis. Donc là, on a vraiment l'essence du discours complotiste. Qui fait appel à la peur, hein, et qui en même temps repose sur un certain nombre de données. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas du discours abstrait, ce sont des experts qui parlent et qui fournissent des chiffres. Alors là, par contre, dans le dernier, on a quelque chose de beaucoup plus moral. Hein. J'ai peine à croire que la désinformation sape les efforts de contrôle de la pandémie. D'où vient cette désinformation des entreprises et du gouvernement? Surtout quand je découvre que ce sont des milliardaires qui sont derrière toute cette réception générale soutenue par l'OMS. Donc là, tout le monde est mis dans le même bain. On a Bill Gates, Zuckerberg, etc. Donc là, on a un complot international de la grande finance sur une prise de contrôle de l'humanité, hein, mais des individus surtout. Ensuite, on bascule vers autre chose qui sont les récits de vie. Hein, c'est-à-dire, posez-vous en tant que parent la question, voulez-vous que votre enfant fasse partie de l'expérience la plus radicale de l'histoire de l'humanité? Ça, c'est aussi l'appel à l'émotion et à la relation à l'enfant. On a posé la question au médecin, le médecin a dit, vous pouvez Il a dit que vous pouvez, que ça craignait rien pour le bébé. Ah oui, ça c'est un récit, c'est des gens... En plus c'est des gens malheureux, hein, c'est des gens qui sont dans la misère et qui disent que leur bébé est mort et le médecin a dit qu'il craignait rien, qu'il pouvait le vacciner. Donc ils ont quand même tout un tas de ressentis, forcément. Voilà, et là, on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour se poser la question si ce n'est pas quelque chose de programmé. On a le droit de s'interroger, c'est notre devoir. Donc là, on voit la remise en cause de la science officielle, du diplôme et d'un certain nombre d'ancrages de la connaissance dans des institutions. Tout ça est mis en cause. Bon, là, après, on a le mot, c'est contact. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, ce qui vous permet de paiement en ligne, c'est votre téléphone mobile. Le téléphone mobile, aujourd'hui, avec une norme qui s'appelle NFC, permet en fait un paiement sans contact. Le sans contact, c'est un sujet Covid. Ça, c'est extrêmement intéressant au niveau de la parole. Hein. C'est vrai que pendant le Covid, on était sans contact, puisque les gestes barrières nous interdisaient le contact. Et donc, le lien entre le paiement sans contact et le fait de ne pas avoir de contact nourrit l'idée que c'est un complot général contre le contact, finalement. Donc, c'est tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour essayer de repérer. On va nous implanter directement sous les peaux du bras, du poignet, une puce sans contact, la même puce sans contact que celle qu'on utilise sur votre carte bancaire ou sur votre téléphone portable. Alors là, j'ai mis une petite étoile parce que ça, en fait, c'est pas un propos de complotiste. C'est un propos de journaliste qui se moque des complotistes et du coup qui est repris par les complotistes pour dire ils se moquent de nous en direct à la télévision, mais en fait ce qu'il dit c'est exactement ça. Et donc il y a la reprise de la parole ironique du journaliste en disant mais il devrait pas rire, ce qu'il dit est extrêmement sérieux. Vous voyez comment ça fonctionne un petit peu. Sur aussi les effets secondaires, hein, donc des tonnes d'effets indésirables apparaissent, donc des décès, chez des patients jeunes qui avaient moins de risques de mourir, et alors là avec des luttes de chiffres sur lesquelles je ne reviens pas, mais avec ce qu'on appelle des biais cognitifs, j'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. Biais cognitifs, c'est ce qui nous permet d'exagérer certaines données par rapport à d'autres, de ne pas imaginer les populations réelles, mais d'imaginer toujours des populations tronquées. Donc ça, c'est tout un tas de principes, de démonstrations qui sont utilisés. Voilà. D'après ce tweet, il leur a dit qu'il faut au minimum entre 2 et 6 mois pour connaître les effets indésirables. Or, je viens de vous dire que le vaccin Pfizer a été mis avec un recul de 1 mois et demi. Donc voilà, il n'y a pas les 2 à 6 mois, il y a 1 mois et demi. Et donc, on se polarise sur ces chiffres-là pour arriver à essayer de démontrer qu'on a été grugé, qu'on a été manipulé par des gens. Même chose alors pour plutôt la question du côté de la maladie, du business de la maladie, des symptômes, etc. L'argument étant le masque ne sert à rien, hein, parce que le fait que être malade c'est avoir un symptôme et que là on a des gens qui n'ont pas de symptômes. Donc ils ne sont pas malades. Donc pourquoi est-ce qu'on les obligerait à se vacciner et à mettre un masque puisqu'ils ne sont pas malades, puisqu'ils n'ont pas de symptômes? Donc vous voyez que si on oblige des gens à prendre un médicament alors qu'ils ne sont pas malades, c'est quand il y a un problème. Vous voyez comment les choses, la rhétorique complotiste se met en place. Alors, à partir de là, on a un certain nombre d'éléments pour décrire qu'est-ce que ça peut être, les ressorts d'une théorie complotiste qui, encore une fois, va influencer un certain nombre de personnes et donc va se propager dans la population. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça marche? Quels sont les effets? Et alors pour étudier les effets, on est allé voir comment les gens en discutent sur les réseaux sociaux. On fait ça assez souvent. On regarde sur les réseaux comment les gens échangent sur quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez les réseaux sociaux. Là, c'est celui de... C'est par exemple France Info. Là, alors là, c'est même pas un réseau, c'est carrément la chaîne de France Info. Et on peut mettre des commentaires. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps voir les commentaires qui sont postés sur France Info. C'est quelquefois assez instructif. Il ne faut pas y aller trop souvent et trop longtemps. Mais quand même, on apprend des choses. Et en ce moment, par exemple, sur la loi du plomb, j'ai 17 chaînes YouTube comme ça de grands médias, comme France Info, RTL, etc. Et les commentaires sont quelquefois un petit peu lourds. Mais donc là, on a des vidéos et puis les gens commentent. Et donc, on a extrait ces commentaires, hein, toujours avec des logiciels d'extraction. Et ces commentaires, voilà, vous avez des commentaires comme ça, hein, qui se mettent les uns au-dessus des autres, avec des gens qui ont le plus souvent des pseudos. Et vous pouvez liker ou pas le commentaire. Vous pouvez... Et nous, donc, on les aspire, hein, on prend des commentaires. On en a à peu près 135 000. Ouais. 135 000 commentaires sur France Info à propos des vaccins. Il y a une activité. Hein. Bon, il faut dire qu'on était confinés, on avait que ça à faire. Mais quand même, il y avait des gens qui ont énormément posté de commentaires là-dessus. Et donc, là, on l'a pris pendant du 27, oui, pendant deux ans, hein, quasiment, du 27 juillet 2020 au 30 septembre 2022, 135 000 commentaires. Et donc, ça fait 5,5 millions de mots. Or, les millions de mots, c'est un peu comme les millions d'euros. Au bout d'un certain moment, on ne se représente plus trop ce que ça fait. Mais il faut savoir que la Bible, par exemple, la Bible complète, hein, enfin, la Bible chrétienne complète depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça fait 800 000 mots. Donc déjà, la Bible, c'est difficile à lire comme ça d'un coup. Mais là, vous êtes à 5,5 millions. Donc on est largement au-delà de la Bible. Donc c'est des choses qui sont quasiment impossibles à lire. Et donc, on a besoin de nos logiciels pour essayer d'y voir clair. Et donc, on fait à peu près les mêmes calculs. Et là, on a donc une analyse, alors toujours pareil, un peu brutale comme ça en sortant, mais on reconnaît encore des blocs. Hein, on reconnaît qu'il y a au moins trois blocs. Et sur ces trois blocs, on a un premier bloc ici qui nous parle de première, deuxième, troisième dose Pfizer, AstraZeneca, ou d'effets secondaires, hein, d'effets indésirables à long terme, à court terme. D'autres qui parlent d'ARN, ARN messager, processus immunitaire, etc. Et puis un petit peu à côté, le virus, ses variants, le risque de mourir, la comorbidité, les risques en fonction de l'âge et des tranches d'âge, etc. Et puis les chiffres vraiment de décès comparatifs entre vaccinés et non vaccinés. Donc ça, on a un discours qui est beaucoup plus un discours scientifique, un discours proche de l'objet, un discours dont on pouvait tout à l'heure dire que c'était un discours d'expert. Hein, ce n'est pas un discours d'affinité, celui-là. Et puis après, vous avez un autre bloc, qui est un bloc où on a le masque, les gestes barrières, donc leur application au restaurant, etc., au cinéma. Et puis, vous avez la question des laboratoires avec l'argent qu'ils se font, Big Pharma, les actionnaires, etc. Et puis Macron, le président, c'est une chose qu'on n'avait pas beaucoup tout à l'heure. Et alors là, très très fortement dans les commentaires, la personne même d'Emmanuel Macron, de ses prises de position et donc éventuellement de sa corruption. Des questions sur la liberté et la question de est-ce que nous sommes toujours dans un pays libre, est-ce qu'il faut se battre pour sa liberté, etc. La question aussi de la vie. En général, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette vie où tout le monde fait peur. Il y en a qui disent le vrai virus du coronavirus, c'est le virus de la peur, c'est celui-là qui tue. Donc les gens et la modification de leur vie quotidienne et la mise en cause, bien sûr, du confinement. Et puis la dernière chose, c'est sur les patients et les médecins, le personnel soignant, qui a droit à une classe aussi toute seule, alors qui est une classe assez importante parce qu'elle est à la fois en respect, hein, c'est-à-dire en respect pour le corps médical et les soignants, mais elle est aussi en culpabilisation des autres, hein, en disant vous voyez le corps médical qui se met en quatre et vous, vous avez des théories alternatives, etc. Donc on voit que c'est beaucoup plus mélangé. Le dernier, je passe assez vite, c'est des gens qui sont plutôt favorables au vaccin, mais qui insultent, on va le dire comme ça, les antibiotiques. Et qui insultent les anti-vax. Donc on a toute une classe comme ça sur les complotistes, etc. Merci France Info de faire ça, il faut avoir des arguments scientifiques, etc. Donc vous voyez que, en fait, cela, c'est aussi des arguments affinitaires. Hein. C'est des gens qui répondent aux complotistes, mais pas de façon scientifique, qui répondent aussi avec les mêmes armes. Et ça, c'est l'une des questions qu'on se pose. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du site gouvernemental Riposte, mais qui à l'heure actuelle se dit, le gouvernement français, c'est tout nouveau, hein, et c'est très très discuté, se dit, puisque par exemple les Américains, en gros, ont des propos insultants sur la politique française, le président, etc., eh ben on va faire des réponses à peu près au même niveau de langage. Ils ont créé un site qui est géré par le ministère des Affaires étrangères, où ils répondent un peu aux attaques, aux attaques de Trump, par exemple, ou de Poutine, des attaques un peu virulentes et un peu outrancières, par ils font des réponses pied par pied, mais en utilisant le même style de vocabulaire. Le mot me reviendra plus tard. Mais bref, voilà, c'est l'idée, utiliser les arguments de l'adversaire, ou la forme d'argument de l'adversaire, pour contrer ces arguments. Et donc là, c'est ce qui se passe. Bon, l'impression que ça ne marche pas forcément très bien. Et donc, je voulais en arriver là, et après j'aurais quasiment terminé. Vous voyez que d'un côté, on a quelque chose autour des vaccins, des virus, des variants, des effets secondaires, de la maladie, de la contamination et de la dangerosité. Ça, c'est la première chose qui est plutôt un discours d'expert, plutôt un discours d'information. Et puis de l'autre côté, surtout ici, vous avez des choses. Donc, j'allais dire, si je vous avais donné que ces mots en disant à votre avis de quoi il parle, mon sac de mots là, vous m'auriez dit sûrement de vaccins et de coronavirus, enfin de Covid. Alors que si je vous avais donné ces mots-là, Macron, politique, gouvernement, sanitaire, passe peut-être, liberté, droit français, président, soignant. Peut-être vous ne l'auriez pas trouvé directement. Parce que ce sont des mots qui sont convoqués à propos du coronavirus, mais qui ne sont pas liés au vocabulaire du coronavirus. Parce que c'est des mots qui sont liés aux affinités. C'est-à-dire que quand on puise dans ce vocabulaire-là, on n'est plus dans l'expertise, on est dans l'affinité, on est dans la recherche des relations entre les gens, on est dans la recherche de la signification, du symbole qu'on peut donner au coronavirus et non pas dans la description de ce que c'est. Et c'est effectivement là-dedans, et notamment dans ces deux classes-là, que les complotistes vont pouvoir se nicher. On voit que c'est des classes assez minoritaires. Alors, on en a beaucoup dit sur les complotistes en disant qu'ils étaient partout, qu'ils saturaient les réseaux sociaux. Non, il y a des sites complotistes comme il y a des films complotistes dans lesquels il y a des gens qui discutent entre complotistes, mais ça ne saturait pas. Alors, le problème, c'était beaucoup plus quand des gouvernements commençaient à récupérer les arguments complotistes. Là, on a eu le rôle du gouvernement américain notamment. Donc ça, c'était beaucoup plus un problème. Mais sinon, c'est assez minoritaire et on a là aussi un biais cognitif. On grossit un peu artificiellement l'importance de ces choses-là. Mais proportionnellement, ceux qui avaient une controverse, ceux qui débattaient sur les questions de controverse scientifique, étaient au moins aussi nombreux. Mais ils passent sous les radars. Peut-être parce qu'ils vendent moins de médias. Et donc je voulais arriver là-dessus, qui est peut-être le seul élément théorique que je voulais introduire, en disant que cette histoire-là, ça rappelle ce que Daniel Kahneman, ça vous sert mieux comme ça, ce que Daniel Kahneman, qui est un... Daniel Kahneman, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un psychologue social qui a eu le prix Nobel d'économie il y a quelques années, pour son travail avec Amos Tversky, et ils ont mis en place les deux systèmes de pensée. Et c'est eux qui sont à l'origine de la popularisation du mot « biais cognitif ». Et donc Kahneman, notamment, dans ce livre-là, Kahneman a proposé deux modes de pensée, qu'il appelle le système 1 et le système 2, ou, plus facile à retenir, le système du lièvre et le système de la tortue. Il dit « on peut penser quelque chose comme un lièvre, c'est-à-dire essayer de résoudre un problème et de prendre une décision, comme tout à l'heure avec mes histoires de prendre une décision, là. On peut le faire assez rapidement en essayant de voir quelle signification intuitivement je peux donner à cet objet et puis qu'est-ce que ça va vouloir dire pour moi de prendre cette décision au regard de mes affinités, au regard aussi de mes croyances personnelles, de mes valeurs. Et donc je m'évite d'analyser le problème pour essayer de parvenir le plus vite possible à une conclusion en faisant l'économie de l'effort intellectuel d'analyse du problème et en allant vers des aspects d'heuristique, c'est-à-dire des raccourcis de jugement qui me permettent d'aller très très vite d'une cause A à un effet B. Ça, c'est le système du lièvre, et très souvent, il passe par là. C'est-à-dire, les gens qui disent, si tu penses comme ça, ça veut dire que tu penses que Macron. Si tu penses comme ça, ça veut dire que tu penses comme Mélenchon. Si tu penses comme ça, ça veut dire que tu penses comme... etc. Et donc, on est obligé, on s'enferme dans des modes de pensée qui nous ramènent à ne pas analyser le problème, mais analyser uniquement la signification du problème. Ça, c'est le système 1, le système du lièvre, le système rapide, intuitif, mais faillible. Et après, il y a le système 2, qui est le système de la tortue, qui, lui, va nous demander d'analyser vraiment les choses. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le coronavirus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Comment on s'en prémunit ? Si on me demande d'être vacciné, qu'est-ce que c'est ce vaccin ? Quels sont les risques ? Quels sont les rapports bénéfices-risques, etc. Donc là, on va... Alors, forcément, si on n'y connaît pas grand-chose, il va bien falloir, à un moment donné, qu'on fasse confiance à quelqu'un. La question, c'est à qui on fait confiance ? Et très souvent, ça se réduit à ça. C'est à qui j'ai envie de faire confiance ? Est-ce que j'ai envie de faire confiance à des gens dont c'est le métier de produire une expertise là-dessus, ou est-ce que j'ai envie de faire confiance à des gens avec qui j'ai des affinités, mais qui n'ont pas d'expertise et qui vont introduire cet objet dans un réseau de signification et d'affinités. Et donc c'est cette idée-là que, d'un côté, on a une description factuelle des faits, des objets, essayer de comprendre, c'est le système 2. C'est un de mes profs qui s'appelait Jean-Léon Beauvois qui disait, c'est parler des fleurs comme un botaniste. Un botaniste, il dit qu'est-ce que c'est qu'une fleur, comment elle fonctionne, de quoi elle est faite. Et ça, c'est le système 2, c'est une valeur informationnelle qui permet la controverse. Hein. Tous les gens qui fonctionnent comme ça ne s'entendent pas entre eux. Hein. Les scientifiques se disputent à qui mieux. C'est pas la question de parvenir à un idéal de bonne entente entre nous. C'est simplement positionner la controverse au niveau de l'objet et mettre en place le doute. Et l'autre partie, là, la partie de droite, c'est plutôt l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va regarder la symbolique des choses, la subjectivation, c'est-à-dire moi-même, comment je me représente moi-même dans cette connaissance. Je vais essayer de justifier plutôt que de comprendre, c'est le système 1, et je vais parler des fleurs comme un fleuriste, c'est-à-dire qui essaye de trouver la signification des fleurs, quelles fleurs on offre à une certaine situation, quel est le langage des fleurs, etc. Et donc, on a les deux existent, mais celui-là, le langage du fleuriste, n'est pas lié à l'objet fleur, comment ça marche, comment ça fonctionne, etc., mais à sa signification et à sa symbolique. C'est donc donner une valeur sociale à l'objet, à la fleur par exemple, ou au coronavirus, et c'est à partir du moment où on donne une valeur sociale à un objet qu'on rentre dans la polémique et non pas la controverse, et qu'on rentre dans la suspicion et non pas dans le doute. Ça, c'est une chose qu'on a eu énormément de choses à faire, de mal à faire comprendre à des gens qui nous disaient mais vous, scientifiques, vous êtes toujours dans le doute, et nous, on remet en cause le bien fondé de ces trucs, on est aussi dans le doute. Et c'est là qu'il faut bien faire la part entre le doute et la suspicion. Et là, on disait, non, vous n'êtes pas dans le doute, vous êtes dans la suspicion, c'est-à-dire que vous suspectez qu'on vous ment et qu'on vous manipule, ce que nous, on ne fait pas. Nous, on essaie de décrire ce que sont les objets. Et donc, pour finir, comment on se prémunit de ça ? Je vais accélérer un petit peu, voilà. Comment on se prémunit de ça ? Comment on essaye de résister à la désinformation ? La première chose, il faut faire attention à ne pas attribuer des valeurs sociales à l'information. C'est-à-dire, toujours garder à l'esprit que la connaissance des choses reflète les relations entre les gens. Donc, à chaque fois qu'on est tenté de prendre une décision, non pas pour ce qu'est un objet, mais pour ce qu'il signifie dans mes relations, on peut ouvrir la porte à de la manipulation et à de la désinformation. Deuxième chose, préférer la négociation au contre-discours. Ça, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais j'ai pu le montrer statistiquement. En gros, l'idée, c'est qu'aucun sachant n'a jamais réussi à convertir un croyant. Donc, quand on nous dit, et c'est pas anecdotique, hein, quand on nous dit que pour répondre aux complotistes, il faut produire des contre-discours, maintenant on dit des contre-narratifs, c'est voué à l'échec. C'est systématiquement voué à l'échec, et pourtant, tous les appels d'offres au niveau national et européen sont dirigés vers la production de contre-discours. On n'arrête pas. Et donc, nous, on n'arrête pas de dire, mais non, il ne faut pas faire ça. Peut-être que ce qu'il faut réintroduire, c'est la vraie notion de doute et la vraie négociation entre les gens. Et puis de la culture scientifique, mais ça, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions. Donc éviter de parler des fleurs en fleuriste plutôt qu'en botaniste, c'est-à-dire toujours essayer de se demander quelle est ma connaissance ? Est-ce que c'est une connaissance descriptive des choses ou une connaissance évaluative des relations entre les gens qui me permet de prendre cette décision ? Éviter de mobiliser des attentes identitaires, c'est-à-dire de me mettre dans la situation où si je prends cette décision, eh ben ça va vouloir dire quelque chose pour des gens que j'aime ou pour des gens que j'aime pas. Entre parenthèses, j'ai fait ma thèse là-dessus. Le plus désagréable étant d'être d'accord avec des gens que j'aime pas. Ne pas être d'accord avec des gens que j'aime, je gère. Ça va. Mais alors, si je me retrouve en accord avec quelqu'un que j'aime pas, c'est insupportable. Et là, il faut trouver tout un tas de stratagèmes cognitifs pour s'en sortir. Éviter de mettre en place des heuristiques. Les heuristiques, c'est faire des comparaisons qui ne sont pas valables, globaliser les choses. Hein. Donc les comparaisons, on dit, mais si tu fais ça, ça veut dire aussi que tu penses ça. Et on prend des choses qui n'ont rien à voir. Donc ça, il y a plein d'exemples là-dessus. Et la globalisation, c'est de toute façon, tout est lié. Et donc ce que tu fais là, tu as l'impression que tu prends une petite décision, mais en fait c'est quelque chose d'énorme que tu es en train de faire et qui engage toute ta vie. Non, à un moment donné, je prends une décision sur quelque chose de local. Et la généralisation d'un cas particulier, c'est les biais cognitifs qu'on connaît bien de surconfiance ou d'optimisme comparatif. La surconfiance, c'est ce qu'on appelle quelquefois le biais Kroening-Kugger, c'est le fait que moins on connaît, plus on a confiance dans nos décisions. Et plus on connaît, moins on a confiance. Et donc c'est un paradoxe qui a été étudié dans les années 70 et qui maintenant est assez connu. Alors quelquefois mal interprété, mais c'est vrai qu'on compense notre déficit de compréhension par une surconfiance dans notre décision. Et puis l'optimisme comparatif, c'est penser qu'il y a des choses qui n'arrivent qu'aux autres et pas à moi, par exemple. Et alors que on est tous... sensibles aux mêmes choses. Et pour finir, pour de vrai, puisque tout à l'heure j'ai été un petit peu méchant avec des chefs d'entreprise, j'aimerais peut-être être un peu plus gentil avec un chef d'entreprise. Et celui-là, c'était Patrice Kane, qui était PDG de Thales et président de l'Association nationale de la recherche technologique, président de France Industrie, qui disait « L'affaiblissement du savoir mathématique et scientifique des jeunes n'est pas seulement un problème pour les entreprises, il constitue une menace pour une société démocratique. La défiance irraisonnée envers la science tue. » Merci. Je peux peut-être faire un peu de vin.
Alors, vous avez bien mérité un verre d'eau, là.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a des questions ?
Au chapitre 3, quand il y avait agriculture, il y avait deux termes que je ne connaissais pas du tout. Au chapitre
3,
je
ne
sais pas ce que ça voulait dire.
Hein? Alors, je vais remonter.
La biodynamie.
Ah oui, pardon. Il faut. Oui, alors, la biodynamie et l'anthroposophie, vous ne connaissez pas ?
Non.
Alors, la biodynamie, vous verrez ça sur certaines bouteilles de vin, et si vous êtes dans des salons du vin, vous verrez des stands de biodynamie avec des labels comme Déméter. Et donc c'est une méthode de culture. Ça ressemble à du bio, mais c'est beaucoup plus que du bio. Il y a derrière des pratiques ésotériques. Alors il y a des gens qui font de la biodynamie et qui en font de façon assez light. Il y en a d'autres, c'est très ésotérique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui enterrent des cornes avec de la bouse de vache dans les vignes et les jours de pleine lune, etc. Enfin, nuit de pleine lune. Donc il y a des choses comme ça. Et donc c'est un ensemble de techniques agricoles, notamment dans le domaine du vin. Vous voyez, un peu dans le maraîchage, mais ce que je connais le mieux, c'est dans le domaine du vin. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que c'est relié à un mouvement sectaire qu'on appelle l'anthroposophie. Et l'anthroposophie, ça a été fondé à la fin du 19e siècle par un garçon qui s'appelait Rudolf Steiner, en Allemagne, et qui a créé ça sous forme d'une doctrine, avec toute une histoire mythologique, et une mythologie très très pointue, hein, c'est-à-dire que derrière, il y a une histoire de la création du monde, il y a une histoire avec des dieux et des démons, il y a toute une mythologie très très fine, et qui a créé quelque chose d'extrêmement discriminatoire, Alors, l'histoire montre qu'à un moment donné, Hitler avait un peu le choix entre deux mythologies pour fonder son action, qui étaient d'un côté les Aryens et de l'autre côté l'anthroposophie Steiner. Et qu'il aurait choisi les Aryens parce que ça parlait plus au peuple, alors que Steiner parlait plutôt aux élites, aux intellectuels. Mais derrière Steiner, il y a donc, et qui a une sorte de grand... Alors lui il est mort, mais les successeurs de l'anthroposophie, c'est un mouvement sectaire qui est assez important. En France, il n'y en a pas énormément, mais assez important en Europe du Nord. Et derrière, il y a le Goetheanum qui est à Bâle, qui est une sorte de grand temple des anthroposophes. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le lien avec l'agriculture. Il y a le lien avec l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a des écoles Steiner-Barlendorf qui enseignent cette mythologie-là, avec des choses quelquefois très curieuses, par exemple qu'il ne faut pas apprendre aux enfants à lire avant l'âge de 12 ans parce qu'ils n'ont pas leurs dents définitives et qu'il y a un lien entre les dents de lait et les démons, alors qu'il faut attendre, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a un lien avec des industries de santé, Belleda par exemple, avec des banques, NFP, enfin il y a tout un tas de liens entre l'anthroposophie et un certain nombre de secteurs comme ça. Et on sait maintenant que la méditation pleine conscience, par exemple, est l'une des portes d'entrée de l'anthroposophie. Ce qui ne veut pas dire que toute la méditation pleine conscience est anthroposophe, mais c'est une voie d'entrée possible dans les entreprises et dans l'éducation.
Merci. Et au niveau de la santé, je passe au film Le Gourou.
Oui.
Tout à fait.
On est dedans. Oui, complètement. Oh, puis après, pas loin, il y a eu Thierry Casasnovas, on a quelques petites choses aussi, pas loin.
Merci.
Dans votre intervention, vous avez cité un terme qui est le transhumanisme. Donc, effectivement, ça me pose question, parce que c'est quelque chose qui est assez nébuleux. Et ma réflexion, c'est que comme il y a une sorte de ping-pong entre les complotistes, les anathèmes, on se lance, vous êtes un complotiste, vous êtes un anti-complotiste, etc. J'ai l'impression que c'est un effet de brouillard pour éviter un débat scientifique ou une réflexion. Et les lanceurs d'alerte, ils sont complètement... ceux qui se revendiquent comme lanceurs d'alerte, ils sont noyés dans cette mélasse. Je suis assez pessimiste sur un développement. Et c'est pour ça que votre intervention elle est intéressante. Mais elle est frustrante dans la mesure où, effectivement, au-delà du débat complot, anti-complot, je suis comploteur ou complotiste. Voilà. Il y a le transhumanisme, il y a Bill Gates et l'OMS. Comment faire pour dépasser ce...
Ça ne se passe pas dans ce type de débat, c'est sûr. C'est sûr que ce type de débat ne permet pas de sortir de ça, parce que on est toujours le complotiste de quelqu'un. Et derrière certains... Récemment, il y a eu... C'était à propos de quoi? Quelqu'un a dit « Les complotistes avaient donc raison ». Je me souviens à propos de quoi. Et il a fallu monter au créneau en disant « Non, c'était pas... Le complot n'a pas raison ». Après, il peut y avoir des événements... Et sur des événements, on peut découvrir des choses après. Il y a des événements qui peuvent être des complots, des théories complotistes à un certain moment et qui n'en sont plus à un autre moment. Donc c'est pas une idée. Le complotisme n'est pas quelque chose qu'on peut coller définitivement, une étiquette qu'on peut coller définitivement à une théorie. C'est à un moment donné, c'est un processus de pensée. Et la seule façon de lutter contre ça, c'est d'amener les gens à reprendre leur processus de pensée. Et puis, à faire la part entre ce qui est de la croyance et de la connaissance. On a le droit de croire ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème à ça. Donc la question, c'est d'avoir conscience qu'à un moment donné, il y a des choses que je crois et auxquelles je tiens, et que ces choses-là ne sont pas avérées par une connaissance. Et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, et d'autres, on ne pourra pas discuter, parce que ça va engager trop de choses au niveau identitaire. Donc, ce qu'il faudrait apprendre aux gens, et c'est pour ça que l'un des débats qu'on a en ce moment, c'est sur l'éducation de la science. Et y a des gens qui disent qu'il faut réapprendre les mathématiques à tout le monde, ça va résoudre le problème. J'en suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr, c'est pas la question de savoir les mathématiques, ou de savoir la biologie, ou de savoir la physique. La question, c'est d'apprendre à penser. apprendre à réfléchir et se dire sur quoi repose ma connaissance et où est-ce que j'assume que ma connaissance s'arrête et que là, ma croyance commence. Et je l'assume. Et je ne mélange pas tout. Et le problème de ce qu'on appelle les complotistes, c'est ce mélange. Donc oui, moi je suis assez pessimiste de ce côté-là, mais je suis d'autant plus pessimiste que derrière, il commence à y avoir une économie. Et que là, ça change tout. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était des économies très très parallèles, très minoritaires, que maintenant, il commence à y avoir une économie, et qui est une économie à très haut niveau d'un certain nombre de théories qui produisent de la valeur économique. Donc soit sous forme d'éducation, soit sous forme de produits de manufacture, etc. Donc voilà, il y a tout un enjeu qui fait qu'à un moment donné, je pensais au béton cellulaire tout à l'heure, ce béton cosmique là, le problème c'est que si on attaque les bases de ce béton cosmique, on peut être l'objet d'une attaque pour attaque de concurrence, attaque économique, etc. Et là, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus difficile à contrer, parce que ça dépasse simplement l'univers de la connaissance pour arriver au univers de la production. Et là, on est coincé. Je ne vous ai pas rassuré.
Excusez-moi, je voulais préciser un petit peu la méditation de pleine conscience, vous disiez, c'est une porte, peut être une porte. Déjà, moi, vous m'avez perdu à ce moment-là parce que
c'est
un
réducteur.
Parce que
Oui,
je me demande ce que ça vient faire là, la méditation de pleine conscience, parce qu'au contraire, la méditation de pleine conscience permet justement de bloquer des pratiques addictives, comme s'alimenter en ligne. Donc c'est un outil formidable, c'est la méditation de pleine conscience, c'est s'ouvrir au monde, c'est pas justement ce que je voulais, c'est accepter ce qui est déjà là. Et du coup, finalement, en prenant du recul, je me dis, mais en faisant toutes ces associations-là, est-ce qu'il n'y a pas justement en filigrane, quelque part, un fond de complotisme sur ce qui ne serait pas pro-scientifique, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là,
alors, il y a plusieurs choses. Quand je dis une porte d'entrée, ce n'est pas une porte d'entrée sur la pratique. C'est utilisé, ça c'est avéré, c'est utilisé par des groupes sectaires pour entrer dans des lieux, soit des entreprises en coaching, développement personnel, soit des écoles ou des universités. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Il y a des pratiques de méditation, y compris de méditation méditation pleine conscience, qui n'ont aucun lien avec ces organismes-là, bien évidemment. Mais ça sera la même chose. On va retrouver la même chose sur par exemple l'ostéopathie, où il y a différents types d'ostéopathie. Il y a des ostéopathies tout à fait scientifiques et d'autres pas du tout. Mais ce sont ces pratiques-là qui peuvent être des portes d'entrée à des mouvements sectaires. Mais ça ne veut pas dire que toute la méditation pleine conscience est sectaire elle-même, hein, attention, ou complotiste. J'ai essayé d'être clair là-dessus et je précise. C'est simplement à un moment donné des institutions qui utilisent ça, ou plutôt des organisations qui utilisent ça pour faire passer d'autres choses. Et ça, par contre, on l'a pu l'observer. Vous avez un rapport de la Mividude là-dessus. Qui est assez clair. Mais voilà, il ne faut pas... Quand on a trouvé des dérives sectaires à un moment donné, il ne faut pas non plus imaginer que ça entache toute une pratique ou toute une profession. Ce n'est pas du tout le propos. Mais la question, c'est de la vigilance. On a dit la même chose, par exemple, des écoles Montessori à un moment donné. On sait qu'il y a des écoles Montessori qui ont connu des dérives sectaires. Ça ne veut pas dire que toutes les écoles Montessori sont sectaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains ont utilisé ce support... Cette organisation pour diffuser autre chose que de l'éducation. Voilà. Mais pour la méditation pleine conscience, c'est exactement la même chose. Alors après, il y a le rapport aussi d'indication contre-indication médicale et notamment pédiatrique de la méditation pleine conscience. Là, il y a des choses aussi qui sont un peu plus avérées et il y a des études scientifiques là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appliquer à n'importe quel type de personne et notamment d'enfants et notamment sur des enfants en difficulté psychopathologique. Mais à partir de là, quand on a à peu près bien cerné les domaines d'application et de non-application, les choses sont relativement claires. Et ne s'agit pas de dire que toutes les personnes qui pratiquent la méditation pleine conscience sont sectaires ou complotistes, pas du tout. Mais comme d'autres choses, ça peut être un vecteur à un moment donné, il faut juste le contrôler. Non, non, mais c'est ça. C'est, à un moment donné, ça peut être aussi un outil de développement personnel tout à fait acceptable. Hein. Ce qu'on a remarqué, c'est que comme certains organismes ne pouvaient pas entrer dans l'éducation nationale, notamment avec d'autres moyens, notamment des moyens de culture, etc., ils utilisaient ça. Et donc, il y a des faits avérés d'emprise de ce côté-là. Je ne veux pas du tout mettre toute la méditation pleine conscience dans ce sac-là. Je dis simplement, on a un déficit de contrôle sur la façon dont c'est utilisé par des gens qui s'en servent pour véhiculer des croyances sectaires et complotistes. Ça, par contre, c'est vrai.
Pour lutter contre ça, je me souviens, il y a longtemps, vraiment longtemps, il y avait une série de disciplines que vous appelez, vous diriez, dans l'apprentissage, l'école, on appelait ça les humanités. Mm-hmm. En fait, on apprenait à faire le lien entre différents niveaux de connaissances, qu'ils soient scientifiques, mathématiques, ou tout simplement, je dirais, sociaux, et ça permettait d'apprendre à penser. J'ai la nette impression que c'est quelque chose qui a vraiment tendance à disparaître et il ne faudrait pas qu'on voit un peu ça au niveau de ce que ça va être. Le constat que vous avez dressé tout à l'heure sur le niveau d'éducation maintenant en France, vu les moyens que l'on se donne, il y a peut-être des remises en question à faire sur un certain nombre d'orientations. C'est une observation.
Oui. Alors, je ne saurais pas ce qu'il faudrait faire. La seule chose que je peux faire, c'est aller dans votre sens, y compris à mon échelle, hein, puisque moi je suis enseignant en IUT, et il y a eu une réforme des IUT il y a 3-4 ans, chose comme ça. Et l'une de ces réformes a été d'évacuer des enseignements tout ce qui pouvait ressembler à quelque chose de l'ordre de la culture générale, de la pensée réflexive, de la théorie. Et donc en nous disant chaque enseignement qu'on avait devait démontrer quelles compétences on développait chez les étudiants, quelles compétences professionnelles. Et si les compétences c'était apprendre à réfléchir au monde dans lequel ils sont, analyser le monde, poser des problèmes, etc., on dit non, ça c'est pas une compétence. Et donc moi personnellement, mon service a été complètement remodelé. Toutes ces parties-là ont disparu au profit de parties beaucoup plus technologiques. Et donc on apprend beaucoup. Maintenant, l'idée, c'est d'apprendre beaucoup plus aux gens à presser des boutons et à faire fonctionner des IA plutôt qu'à réfléchir à produire des analyses et à produire des outils adaptés, par exemple, à leur environnement. Ça, c'est complètement perdu. Donc voilà, c'est sans doute pas très optimiste, mais à l'heure actuelle, on en est quand même là. Est-ce que ça explique le déficit de culture scientifique des Français par rapport aux autres ? Là, il faudrait faire une analyse vraiment plus poussée au niveau international sur les différents systèmes d'éducation. Donc il faudrait revoir la formation des enseignants, leurs conditions de travail, tout un tas de choses. Et puis peut-être en amont aussi, quel type de message on fait passer à cette jeunesse-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que on est dans une situation dont on n'arrive pas à se sortir. C'est assez inextricable. C'est vrai qu'une année, ça a stagné. On disait, waouh, pour une fois. Comment la ministre, elle avait dit on a relevé la hausse, ou on a relevé la baisse, on a augmenté. Enfin, elle trouve une formule comme ça qui permettait de dire que pour une fois, on ne baissait pas encore. Mais qu'on avait à peu près stabilisé dans les niveaux médiocres, quoi.
Mais vous, par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand on dit que les filles sont moins douées en maths que les garçons, par exemple. Alors que, non mais c'était au niveau de l'évaluation, c'est-à-dire que les filles, vous êtes d'accord?
Comment?
Alors qu'on voit que quand même maintenant, dans des vies de parcours des filles, qui font des études, on voit quand même des femmes qui sont de plus en plus médecins, pharmaciens. C'est quand même des domaines maintenant de femmes, dont des études scientifiques.
Ouais,
donc ça relève des maths.
On en voit, mais j'allais dire, quand on regarde les statistiques, on n'y est vraiment pas encore. Alors, pourquoi? Ça, c'est une très très bonne question, là où vous avez complètement raison. Alors, là, mes références sont un peu anciennes, mais c'était Christian Baudelot et Roger Establet qui avaient écrit un livre qui s'appelait « Allez les filles ». Et ils observaient une chose, c'est qu'au niveau de la troisième, par exemple, les niveaux en maths, par exemple, des garçons et des filles étaient équivalents, même les filles étaient un peu meilleures que les garçons. Et pourtant, quand on passait à la seconde, toutes les filles allaient dans le socio-littéraire et les garçons allaient dans le techno-scientifique. Et moi, qui suis prof en IUT socio-littéraire, j'ai 90%. Et depuis depuis Parcoursup, à une époque, collègue est là, à une époque, on recrutait nos étudiants et on avait des moyens pour essayer de rééquilibrer le nombre de garçons et de filles, parce qu'on faisait des entretiens, etc. Maintenant, on n'a plus ça, c'est tout automatisé. Il m'arrive d'avoir des groupes entiers sans aucune fille. J'en ai eu un cette semaine, parce qu'on est en socio-littéraire. Et si je traverse la route de Narbonne et que je vais en amphi de génie mécanique, etc., c'est tout à fait le contraire. Donc le fait, il est toujours là. Le fait, il est toujours, les filles vont vers le socio-littéraire et les garçons dans le techno-scientifique. Et ça s'est, je pense, aggravé. Alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Et Baudelot Establet disait, alors plusieurs explications possibles, peut-être que c'est dans les gènes. Peut-être que la science est sur le chromosome Y. Bon, on a cherché, on l'a pas trouvé. Alors peut-être c'est dans le cerveau, puisqu'il y aurait des cerveaux masculins, des cerveaux féminins, droite, gauche, etc. Bon, tout un tas de bêtises qu'on peut entendre, mais certains ont cherché la bosse des maths, et puis on s'est dit, peut-être que la bosse des maths, elle est dans une partie d'un cerveau masculin plus développé. On n'a rien trouvé. Donc les sociologues étaient obligés de dire, si c'est pas dans les gènes et si c'est pas dans le cerveau, c'est donc dans la société que ça se passe. Dans le regard qu'on porte sur un garçon qui réussit ou une fille qui réussit, ou surtout quand ils échouent. Hein, si une fille échoue à son devoir de maths, quelle est la réaction des parents et des enseignants? C'est pas grave, elle fera autre chose. Si un garçon échoue dans un devoir de maths, c'est grave, c'est ton avenir. Donc il y a tout ce retour-là. Hein, et ils ont étudié ça dans les appréciations. Hein, une fille, elle n'aura pas une appréciation motivante. Un garçon, si elle loupe ses devoirs en sciences. Et après, il y a l'environnement familial, etc. Donc, effectivement, il y a aussi tout ce regard-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un film qui s'appelait « La domination masculine », où il y avait une séquence que je trouvais adorable. C'est les journalistes hein, qui jouent le couple de parents qui cherchent un cadeau pour leur enfant. Et donc, ils vont voir un jeune vendeur dans un magasin de jouets. Et lui, en toute bonne foi, et vraiment très très attentionné, il dit c'est un petit garçon, une petite fille, et donc ils disent c'est un petit garçon, ah alors je vais vous amener là ce sont les jeux de construction qui développent l'autonomie, et là le gars il dit et pour les petites filles, ah ben là c'est les petites filles, c'est l'autre rayon où on leur apprend à faire comme maman. Et c'est un bon professionnel, il répondait à la demande. Et en faisant ça, il dirige complètement, il participe à ce que donc la domination masculine, c'est pour Dieu, appelle la reproduction.
Merci. Que pensez-vous de ces scientifiques reconnus comme Christian Pérone, Luc Montagnier, qui parlent dans le film Walter? Qu'en pensez-vous de ces scientifiques?
Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est... Oui, non, mais j'en pense pas, Christian et Raoult, Didier Raoult, j'ai oublié son nom. Et... Alors bon, il y a des blagues, notamment pour Montagnier, etc. La malédiction des Nobel qui deviennent fous une fois qu'ils ont eu leur Nobel. Bon, il y a des choses comme ça qui tournent. Moi, j'aurais une vision de système là-dessus. C'est-à-dire que je n'aurais pas une vision psychologisante, parce que je ne les connais pas et parce que je n'ai pas de recul là-dessus. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que la recherche est devenue une affaire de concurrence. Maintenant, être chercheur, j'ai été directeur de labo pendant 9 ans, et j'ai passé mon temps à faire vivre mon labo un peu comme une boîte. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve les financements, que je trouve les ressources humaines, que je retrouve tout. Et surtout, il fallait que je lutte pour la subsistance de ce labo qui était menacé par une évaluation qui aurait été négative, etc. Et donc, on rentre dans une concurrence. Et cette concurrence, il faut qu'on soit le plus visible, et donc plus visible que le voisin qui est sur le même... Et en faisant ça, un produit de recherche sort d'une production de la connaissance pour devenir un outil de pouvoir. Et je pense à Didier Raoult, dont on dit, est-ce qu'il savait qu'il produisait des études qui étaient fausses, puisque maintenant on peut le dire, hein, puisqu'elles ont été rétractées, quasiment toutes les études sur l'hydroxychloroquine de Didier Raoult ont été rétractées. Ce qui est, parce qu'au départ, moi, l'hydroxychloroquine, je trouvais que c'était un super débat, hein, je trouvais que c'est une controverse. Par les revues qu'ils ont publiées. Ouais. Et en fait, mais alors donc, et pour des biais méthodologiques majeurs. Bon, moi, j'ai pas les compétences pour juger, mais elles ont été rétractées. Donc, on sait que ces études n'auraient pas dû être publiées, qu'elles étaient mal faites. Un peu comme l'une des études qui m'avait fasciné et qui à la fin était complètement fausse, c'était la mémoire de l'eau de Ben Benveniste. Moi, j'étais fasciné par ça. En plus, je commençais mes carrières scientifiques. Je me disais, là, on a un nouveau paradigme, on a quelque chose de nouveau, ça a été publié, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça ne marchait que quand c'était Ben Benveniste lui-même qui faisait l'expérience. Dès que c'était quelqu'un d'autre ou qu'il y avait quelqu'un en présence de Ben Benveniste, c'est une expérience qui ne marche plus. Donc c'est pareil, ça a été rétracté. La science, c'est ça. Et on n'hésite pas à publier parce que c'est publish or perish. Donc on publie ou on périt. Et c'est le système concurrentiel et quasiment économique de la recherche scientifique maintenant. Donc ces gens-là sont dans cette course à la publication comme valeur économique et non pas comme production de connaissances. Et maintenant, ça va très loin. Hein. Maintenant, quand on recrute un jeune collègue à l'université, généralement, il arrive en nous donnant les contrats et les kilos euros qu'il a gagnés dans les contrats quand il était doctorant ou post-doctorant. Ce que moi, dans ma génération, on ne faisait jamais. Enfin, on n'arrivait jamais dans son CV en disant « j'ai remporté tant de contrats à tant de kilos d'euros ». Maintenant, ça fait partie... la recherche est devenue une production économique. Donc c'est comme ça que j'explique ces dérives-là. Pas par des personnes... Mais par des effets de système. Oui, par une organisation économique et quasi industrielle de la recherche. Et jusqu'à la publication. Hein, maintenant, il faut avoir les moyens pour publier, parce qu'il faut payer pour publier. Et ensuite, il faut même payer pour avoir accès à ses propres articles. Donc maintenant, quand on fait un contrat, quand on répond à un appel d'offres, on a une ligne dans laquelle on marque l'argent qu'on va dépenser pour pouvoir publier nos propres papiers. Donc voilà, c'est devenu une industrie. Je pense que l'un des problèmes comme ce genre de dérive, c'est ça.
Et c'est dans tous les pays européens ?
Oui.
D'accord.
Oui, maintenant... alors, il y a un mouvement de fond pour essayer de revenir en arrière, parce que maintenant, avec l'IA, ça a pris des proportions dingues. C'est-à-dire que maintenant, on trouve des articles qui sont publiés dans des très grandes revues et qui ont été écrits par des IA. Et donc, un de mes collègues qui est informaticien à Toulouse, qui s'appelle Guillaume Cabanac, avec qui j'ai beaucoup travaillé à une époque sur les Gilets jaunes, on avait travaillé ensemble. Et lui, c'est sa spécialité. Il invente des outils pour détecter les articles qui ont été écrits par l'IA. Parce que l'IA ne maîtrise pas forcément le langage scientifique précis, et donc elle trouve des synonymes. Puis aussi, il y a des paraphrases, d'autres articles construits par paraphrases, etc. Et donc, elle écrit des mots qui n'existent pas dans le discours scientifique. Donc, il invente des logiciels qui permettent d'avoir des thésaurus, des lexiques de discours, de comparer ça avec les textes et de calculer le pourcentage de mots, il appelle ça de tournures torturées, de phrases torturées. Qui sont présentes dans les articles. Et là, alors, il a fait rétracter des articles scientifiques, des plus grandes revues, on parlait de Nature notamment, a rétracté pas mal d'articles dont on s'est aperçu a posteriori qu'ils avaient été produits par des IA.
Mais d'habitude, dans ces revues-là, il y a toujours des lectures par des spécialistes.
Justement. Et voilà, c'est ça pose ce problème-là.
Voilà.
J'ai une question suite au premier chiffre que vous avez donné sur la façon des Français, comment on fonctionne, enfin, un peu par rapport au complotisme, la façon dont on analyse les choses. Est-ce que vous pensez que
serait bien de développer une réflexion critique au niveau de l'enseignement, et notamment à l'université.
Oui.
Moi, je sais pas si ça a changé, hein, parce que ça fait un peu longtemps que j'ai quitté la fac, mais donc, quand j'étais en fac, il y avait ce qu'on appelle les cours magistraux. Ça veut dire le prof, qu'à la science infuse, on écoute, et voilà, et on avale. Et quand on avait un exposé à faire, et bien en fait, on priait du coup qu'il n'y ait aucun étudiant qui pose de questions. Et s'il y en avait un qui, justement, nous mettait en difficulté parce qu'il posait une question, mais alors on était collés. On disait, mais n'importe quoi. Et j'ai eu la chance de partir en Allemagne. Et donc là, c'est complètement différent.
Oui, c'est ça.
Là, on était amené, pareil, à faire des exposés. Et si le sujet qu'on avait choisi ne suscitait pas de débat, c'était pas la peine qu'on entende. La note était pas de la tête, c'était évident, parce que c'est bien, on avait complètement foiré. Ce qui était intéressant, c'est justement qu'à la fin, on pose des questions et que ça fasse débat, qu'on puisse avoir un échange. Et donc, ma question est double. Est-ce que le système français a changé ou pas? Et est-ce qu'à votre avis, justement, il serait bon de développer cet aspect?
Oui, alors, le système... Est-ce que le système globalement a changé? Je ne sais pas. Il y a eu une nouvelle génération d'enseignants-chercheurs à peu près en même temps que moi ou légèrement après, de gens qui déjà, ce qui n'existait pas avant, après la thèse partaient un an ou deux à l'étranger avant d'avoir un poste à l'université et trouvaient d'autres moyens d'enseigner et notamment dans le rapport aux étudiants et le rapport au savoir. Donc il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là, y compris dans l'aspect critique. Et le cours magistral, je trouve que moi j'en fais beaucoup, parce que justement, ça, on a changé un petit peu de façon de voir le cours magistral. Alors, je fais des cours de magistraux relativement restreints. Moi, quand j'ai une centaine d'étudiants en cours magistral, ce qui à la fac est quasiment un gros TD. Mais on a tout un tas de techniques et on a appris tout un tas de techniques et de rapports pédagogiques qui nous permettent de sortir de ce que vous avez connu comme cours magistral et qui permettent de dynamiser beaucoup plus, d'autoriser la discussion et y compris la discussion critique. Donc de ce côté-là, il y a une évolution. Une autre évolution, c'est qu'on estime maintenant que les étudiants ne sont plus capables de suivre un cours magistral. Et donc on les supprime de plus en plus, et on ramène ça à des cours de TPTD. Alors on pourrait se dire, ah ben c'est bien, c'est en proximité. Oui, non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas sur les mêmes enseignements, parce qu'après du coup en TPTD, on va réduire tout ça à des choses très très opérationnelles, et donc pas quasiment plus de cours vraiment réflexifs. Ça c'était pour la première partie de la question. Il y a des choses qui se sont passées, mais... Pour aller plus loin, ça n'a pas été un effet de système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion globale organisée pour repositionner l'enseignement universitaire et voir comment on faisait quelque chose de nouveau avec ça. C'était plutôt des initiatives de jeunes enseignants-chercheurs qui étaient recrutés et qui disaient « je vais faire les choses différemment parce que je suis allé aux États-Unis, en Suède, en Allemagne » et que là-bas, j'ai vu qu'on pouvait faire autrement, et que ça me plaît bien. Donc ça a été plutôt des initiatives qui se sont répandues, donc je ne connais pas tout, mais dans mes disciplines, le cours magistral à l'ancienne, ça fait longtemps qu'il n'existe plus tel quel. Et c'est sans doute une bonne chose. Mais, et après, sur la question de l'esprit critique, c'est intéressant, et moi j'ai l'impression qu'il y a... que l'université ne se donne plus cette mission-là. Et, ou de façon assez marginale dans certains enseignements. Ça, de façon globale, par exemple, y avait des choses... Il y avait à la fac de Nice d'abord, et puis à d'autres, les laboratoires de zététique sur la promotion du doute scientifique. Et bon, ça a disparu. Tout ça, c'est des expériences qui ont disparu. Donc, la seule chose qu'on a maintenant, alors, en même temps, ben, je vous y invite, parce que je l'avais marqué à la fin et je ne l'ai pas précisé, en avril prochain, si je me souviens bien, ça devrait être... je ne sais plus la date, je la retrouverai si ça vous intéresse. Il y a les rencontres de l'esprit critique à Toulouse. Et ça, ça va être les 5e ou 6e. C'est une réunion, c'est vraiment quelque chose de très toulousain. Ça se passe à la Belge, à Diagora. Et pendant 2 jours, alors là, cette année, c'est une journée à Diagora. Parce que là aussi, il y a une baisse de subvention qui fait qu'ils n'arrivent plus à en faire 2 jours. Au départ, c'était même 3 jours. Et il y a tous les spécialistes de ces questions-là, d'esprit critique, de renouvellement de l'enseignement et aussi de lutte contre les dérives sectaires, etc., qui se réunissent. Et donc il y a des universitaires, il y a des praticiens, il y a des youtubeurs qui sont là avec des chaînes comme La Tronche en Biais ou des choses comme ça. Et donc ils se réunissent. Et puis des fact-checkers aussi comme Julien Pain de France Télé ou Samira Gadi de TF1, voilà, et qui se réunissent, c'est gratuit, c'est public, et il y a des conférences un petit peu sur tout ça. Donc voilà, il y a des initiatives, mais c'est souvent des initiatives associatives et de mouvements de la société civile, et très peu, et ça vient très peu de l'université, parce que les universitaires, on est dans le guidon, dans la production, et qu'il faut produire du papier, et puis les moyens de leur subsistance.
On va prendre une dernière question, s'il vous plaît.
Bonjour, Gilles Barouin, je suis enseignant-chercheur en fait, en mathématiques. Je suis à l'université de Jean Jaurès. Ouais. Déjà, je vous remercie et je partage tout à fait votre avis sur la politique de la recherche, la marchandisation. Il faut toujours produire, et aussi la bureaucratisation, qui nous fait perdre un temps énorme. Alors qu'on peut passer du temps devant les élèves, on le passe à remplir des papiers. Par contre, j'ai un truc que je voudrais quand même dire, j'étais un petit peu gêné sur... vous avez mis les sciences dans le même panier.
Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, non, parce que moi je suis mathématicien. Je vais vous dire, quand vous avez parlé aussi de qui écouter, je suis très gêné, je n'ai toujours pas la réponse, de qui à faire confiance.
Oui.
Vous avez parlé de la médecine, je ne suis pas médecin. Alors je suis allé sur le site de la recherche, j'ai regardé les nombres de publications de M. Raoul, de M. Perron et tout, et j'en ai déduit comme conclusion que j'y comprends rien. Voilà. Et je ne sais pas qui croire en médecine, parce que pour moi c'est un
truc. Mmh.
Je fais confiance à mon médecin traitant. Je voulais dire, excusez-moi, docteur. Mais quand ça. C'était pas. Mais quand c'est un sujet scientifique, si vous voulez, en maths, on va jamais quelqu'un va dire le contraire. On va dire, tiens, t'aurais pu passer par là, on arrive au même niveau. En médecine, on peut avoir quelques divergences. Mais ils sont tous de bonne foi. Mais quand on arrive dans des choses comme la sociologie, où les gens sont pas d'accord entre eux, où il y en a un qui dit noir, l'autre qui dit blanc, moi qui suis pas du métier, et donc je peux quand même abstenir.
Ouais.
Par contre, je me rassure, docteur, je fais confiance à mon docteur, je fais confiance à mon conseiller paysagiste qui est là, je fais confiance à mon plombier, mais voilà. Et c'est ce que je voulais vous demander, c'est que comment on fait quand on n'est vraiment pas du truc, et pour faire confiance, et à qui?
On fait confiance à son praticien.
Je peux vous rassurer, il n'y a pas longtemps, j'ai fait partie de la naissance de ce qu'on appelle la médecine fondée sur l'épreuve. C'est-à-dire l'ANDEM, et puis maintenant j'étais correspondant et expert à la Haute Autorité de Santé. Donc maintenant, les médecins ont des guidelines, on appelle ça, des recommandations pour toutes les maladies qui sont étudiés après la lecture de la littérature internationale avec des experts. J'étais même président d'un groupe sur l'analyse on appelait ça l'hémogramme. Vous connaissez ça dans les prises de sang, c'est les globules rouges, etc. Donc maintenant, mais c'est récent. Ça fait 20-30 ans à peu près. Vous pouvez être rassuré. Alors le problème, c'est que les praticiens lisent les recommandations que la Haute Autorité de Santé, ce qui n'est pas toujours fait maintenant. Il faut leur demander à votre médecin.
Mais je vais répondre à peu près ça. Hein. C'est-à-dire que, alors, tout en le réintroduisant peut-être dans l'histoire des sciences, donc effectivement, la médecine n'a pas été toujours considérée comme une science. Clairement, si on prend les grandes taxonomies des sciences depuis l'Antiquité et puis jusqu'à Auguste Comte, en gros, Auguste Comte disait il y a mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie. Et c'était classé comme ça par ordre de généralité croissante et de complexité décroissante. Donc, et la médecine en tant que telle n'y était pas. La biologie était, mais pas la médecine. Et les médecins disaient la médecine est un art, une technique, mais ça n'est pas réellement une science. Et c'est vrai qu'est apparue ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les preuves, qui a remis un petit peu une partie de la médecine, et notamment de la médecine universitaire, dans une démarche qui est une démarche de validation d'expérience, de validation de production de faits et de validation de faits. Tout le monde n'est pas, dans les praticiens, sur cette dimension-là. Donc, c'est une dimension qui tend à gagner du terrain, mais il y a tout un tas de praticiens qui continuent à dire le médecin, c'est avant tout quelqu'un d'expérience, qui a rencontré beaucoup de gens, qui s'est construit une intuition, et c'est sur la base de cette intuition qu'il va produire son diagnostic et son pronostic. Et donc là-dedans, les grandes théories des professeurs de médecine basée sur les preuves, c'est en gros de la grande théorie mathématique, mais ça n'est pas pour nous, praticiens, etc. J'ai connu la même chose en psychologie ou en sciences humaines et sociales, où ce débat-là est encore plus puissant, parce que chez le médecin, il y a toujours l'idée quand même qu'à un moment donné, on représente une parole qui est une parole scientifique, et que même si on prend quelques distances, on a quand même l'image. Si on prend les sciences humaines et sociales, certains s'en démarquent radicalement, en disant, là, il y a les scientistes. Et les scientistes sont ceux qui ne reposent pas sur la production de faits, la production de preuves, et des théories, des modèles, etc. Donc le débat est encore plus fort à l'intérieur des sciences humaines et sociales qu'il ne l'est à l'intérieur des sciences. Mais il existe aussi à l'intérieur des sciences, sauf en mathématiques. Alors ça, les mathématiques, c'est un cas extrêmement particulier, qui a son propre modèle de fonctionnement. Donc Auguste Comte disait que c'est les sciences les plus générales parce que leurs lois s'appliquent à toutes les autres, mais c'est les sciences les moins complexes parce que sorties de leur domaine de compétence, elles n'expliquent rien. on pourra en parler. Et inversement, il disait la sociologie est la science la moins générale, enfin la moins complexe. Non, la moins générale parce qu'elle doit inventer des concepts que toutes les autres ne connaissent pas, et par contre qu'elles ne peuvent expliquer que leur domaine de recherche.
La sociologie est un sport de combat.
Alors ça, c'est un autre film, absolument. Et Pierre Carle, je crois.
Je crois qu'on va pouvoir en rester là. C'était très intense et très intéressant. Merci.
Ah ouais, bravo. Vous êtes allé UT de Rangueil ou...
Oui.
D'accord.
Une petite annonce, à moi, Monsieur Bolvestre. Samedi 28 mars, il y a une signature de livre faite par une écrivaine africaine qui a été lauréate de plusieurs prix, notamment le prix des jeunes auteurs de Muret. Donc ce sera... Là, les signatures de ce livre se fait entre 11h30 et 12h30 à la SCAC Marestin. La SCAC Marestin, c'est en partant de Montesquieu par le Castéra en allant en direction de la Trappe. Et le dimanche lendemain, vous avez un film qui est présenté par la propre réalisatrice, Elles Inspirent. C'est dans le cadre, bien sûr, d'un cas très féministe, puisqu'on nous avons affaire à une autrice, elle est Boom, le samedi, et à une réalisatrice féminine également, le dimanche.
C'est toujours à Marestin.
Toujours à Marestin. Alors Marestin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative d'art contemporain qui reçoit deux mois dans l'année des artistes africains en résidence, qui parfois fonctionnent avec des artistes régionaux. Et qui présente donc des expositions de leurs œuvres. Et en général, ils doivent laisser faire une œuvre sur place, qu'ils laissent sur place. Et maintenant, on y a créé un chemin des œuvres qui permet d'admirer les différentes pièces posées par les artistes qui sont venus ici. Le Marestin, c'est intéressant à visiter. Et maintenant, une chose plus prosaïque. Vos chaises, vous les rangez les bleus par 5, vous les laissez par place, sur place, les grises par 10, les rouges et les rouges, il n'y en a pas.
Ah, moi, je vais ranger les rouges.
Et je remercie, bien sûr.
Et vous êtes convidés au repas partagé. Merci, Jean-Paul.
Vous avez
été très sympa. Il y avait encore plein de questions, mais il y avait encore la philosophie.
Ah, grande question. Au départ, c'était tout ça. Au départ, c'était la philosophie. La philosophie, c'est un mot inventé par Pythagore pour expliquer ce qu'il faisait avec les. Donc, au départ, jusqu'à, quasiment jusqu'au 18e